Vous êtes sur RTL.
Attends, je le vois dans mon petit écran là tout au bout du studio. Bonjour Yves.
Allez, on galope. Bonjour Julien et merci à toute l'équipe des Petits Matins d'RTL. Bonjour à tous. Ses ambitions sont présidentielles. Il a été ministre de la Santé et a bien évidemment un avis sur les réponses à apporter sur la gestion sanitaire de la pandémie. Xavier Bertrand est ce matin l'invité d'RTL. Dès 7h40, le président des Hauts-de-France répondra aux questions d'Alba Ventura. Les conseils et les critiques en la matière, le gouvernement en a par-dessus la tête. C'est ce que nous dira Olivier Bost dans son éditorial dès la fin du journal de 7h. Je vous invite aussi à retrouver le reportage en immersion auprès de nos policiers de Sinamir. Ce n'est pas compliqué. Beaucoup d'entre eux sont épuisés moralement et physiquement. Il sera 7h15. Enfin, la semaine verte, la Green Week à laquelle RTL et le groupe M6 sont associés. Qu'est-ce qui va changer au rayon et avec quels engagements concrets sur nos produits d'hygiène et cosmétiques? La réponse d'Hervé Navellou, le directeur général de L'Oréal France, dès 8h20. Nous sommes le lundi 25 janvier 2021. Très bonne journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Il faut reconfiner rapidement. La communauté scientifique semble ce matin unanime, mais l'Élysée hésite encore.
Quelques jours, quelques semaines peut-être de répit, le temps de mesurer les effets du couvre-feu et de sauver économiquement ce qui peut encore l'être. Les toutes dernières informations de notre service politique dans un instant. La piste d'un règlement de compte entre bandes rivales pourrait être à l'origine de la violente agression du jeune Yuri à Paris. L'adolescent de 15 ans est sorti du coma ce week-end. À suivre également la nouvelle campagne choc de la sécurité routière. L'avion du futur, objectif zéro émission de gaz. Airbus y travaille, reportage à suivre. Et puis 90 minutes de calvaire hier soir pour les Stéphanois battus 5-0 à domicile par l'Olympique Lyonnais.
La politique avec Olivier Bost.
Le gouvernement acceptera-t-il, entendra-t-il les critiques sur un nouveau confinement?
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
La question n'est plus de savoir s'il y aura un reconfinement, mais quand interviendra-t-il? Hier soir, c'est le président du Conseil scientifique en personne qui appelait l'exécutif à prendre une décision rapide. Le contexte, estimait Jean-François Delfraissy, s'est considérablement dégradé.
Il faut bien que les Français comprennent que les mutants et les variants anglais, sud-africains, brésiliens, maintenant californiens, changent complètement la donne depuis 3 semaines.
Jean-François Delfraissy chez nos confrères de BFM. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Du service politique de RTL. Tout risque de se jouer, Jacques, cette semaine. Nouveau conseil de défense prévu après-demain, mercredi.
Oui, c'est presque devenu une habitude pour le chef de l'État, mais cette fois, la pression des scientifiques se fait de plus en plus forte. Pour le moment, Emmanuel Macron temporise. Sa stratégie, c'est d'attendre, attendre pour repousser tant que c'est possible cet inéluctable reconfinement. Oui, il y aura bien un troisième confinement, mais il faut le décréter le plus tard possible, en dernier recours, a déjà dit Jean Castex. Au sommet de l'État, on ne se fait guère d'illusions. Nous n'échapperons pas aux variants anglais. D'ici à mercredi, les chiffres de l'épidémie seront donc particulièrement scrutés. L'Élysée attend un bilan, celui des résultats du couvre-feu avancé à 18h, 15 jours après sa mise en place. Cela nous permettra de savoir si pour l'instant cela suffit pour maintenir l'épidémie sous contrôle, explique un conseiller. Les données sur la circulation du variant anglais doivent également être réactualisées en ce début de semaine. C'est là-dessus que se basera la décision d'Emmanuel Macron. L'Élysée fait savoir qu'à ce stade, aucune prise de parole du président n'est prévue cette semaine.
Alors l'idée d'un reconfinement qui fait son chemin, on l'a compris, mais qui ne pourra se faire, comme ce fut le cas pour les précédents, qu'avec l'aval de la population. Or, l'opinion publique sur ce point apparaît divisée, les commerçants notamment, parmi les plus touchés. Écoutez ce marchand de chaussures installé à Lille.
S'il y a un troisième confinement où les magasins sont fermés, ça risque d'être la fin. Il y a une crainte parce que les loyers courent toujours. Dans notre milieu à nous, c'est paiement comptant pour les achats, la marchandise est à nous. Donc si on ne vend pas et qu'on ne vend pas en plus au solde, ça amène à long terme, si ça va trop longtemps, une fermeture définitive. C'est une catastrophe pour tout le monde.
Jacques Serret, on vous retrouve. Ce témoignage, c'est celui de centaines de milliers de commerçants. Le désastre économique, ça pèse évidemment dans la décision de l'Élysée.
Oui, clairement. Le coût pour l'État d'un reconfinement s'élève à environ 15 milliards d'euros par mois. Aujourd'hui, le couvre-feu avancé à 18h, c'est près de 4 fois moins de dépenses publiques, 4 milliards d'euros. Un paramètre donc non négligeable. D'autant plus que le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, estimait il y a quelques jours seulement que l'année 2021 devait marquer la fin du quoi qu'il en coûte.
Merci Jacques Serret.
Il est 7h03. Le contexte sanitaire, on l'aura compris, pèsera lourd évidemment dans la prise de décision. Et tous les derniers chiffres ne sont pas franchement encourageants.
Oui, dans certaines régions, la souche britannique, on le sait nettement plus contagieuse, représente jusqu'à 9% des cas. Dans certains hôpitaux, les mêmes scènes déjà vécues au printemps, et à l'automne dernier, des services d'urgence saturés et des patients transférés ailleurs. C'est le cas à l'hôpital de Nice, chez vous, Mickaël Lefebvre.
Oui, au CHU de Nice, 90% des 32 lits de réanimation mis à disposition pour les patients Covid sont occupés. Des chiffres très élevés. d'entrées qui ne baisse pas, même si la hausse des entrées ralentit ces derniers jours, comme l'explique le professeur Carole Hichet, chef du pôle anesthésiste-réanimation.
Les chiffres n'ont pas baissé, en tout cas pour ce qui est du flux entrant versus le flux sortant, et on a plutôt une augmentation qui est plutôt infléchie par rapport à il y a 8 jours.
L'analyse des eaux usées de la ville, où la concentration du virus est très élevée dans certains quartiers, fait toutefois craindre une nouvelle flambée du taux d'incidence dans les jours à venir, et donc un nouveau rebond des admissions dans les hôpitaux niçois.
Si forcément vous augmentez ce chiffre, le pourcentage d'hospitalisation va être plus important, que ce soit en conventionnel, et s'il y a plus d'hospitalisation conventionnelle, il y aura aussi plus d'hospitalisation dans les lits de soins critiques réanimation.
Pour éviter l'ouverture de lits de réa supplémentaires, qui entraînerait la déprogrammation de certaines interventions chirurgicales non urgentes, les transferts de patients vers d'autres départements ont débuté. Après Antibégrasse, le CHU de Nice a ainsi transféré samedi une personne vers Marseille.
Reportage de Mickaël Lefebvre. On évoquait il y a quelques minutes avec Jacques Serret l'acceptation par l'opinion publique des restrictions aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, l'instauration d'un couvre-feu ce week-end, le premier dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclenché de violentes manifestations. Des heurts ont éclaté la nuit dernière avec la police, des pillages de magasins ont eu lieu, des voitures et même un centre de dépistage ont été incendiés. Les autorités ont procédé à des dizaines d'arrestations. Et puis concernant les vaccins, cette annonce qui pourrait changer la donne, le groupe français Sanofi, à la traîne, on le sait, dans ses recherches, pourrait en revanche mettre à disposition ses capacités industrielles pour accélérer la production des vaccins déjà existants sur le marché. C'est Agnès Pannier-Runacher qui l'annonce, la ministre déléguée à l'industrie dans les colonnes du Parisien.
Il est 7h05. Des nouvelles du jeune Yuri à présent. Son état s'est légèrement amélioré, même s'il reste critique selon les médecins.
Et 10 jours après avoir été lynché, tabassé par une dizaine de jeunes et quasiment laissé pour mort dans le quartier parisien de Beaugrenelle, l'adolescent de 15 ans s'est réveillé doucement de son coma ce week-end. Sa mère a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver les agresseurs de son fils, car pour l'instant, Guillaume Chiez, aucune interpellation n'a eu lieu.
Oui, comme souvent lors de ce type d'enquête, il faut du temps avant d'identifier tous les protagonistes. D'abord parce que la scène de passage à tabac est filmée de loin par les caméras de vidéosurveillance. Tous les agresseurs portent une capuche, on ne distingue aucun visage. Ensuite, parce que les témoins sont rares. Ceux qui ont prévenu les forces de l'ordre mentionnaient une rixe entre deux bandes, mais aucun participant ne s'est manifesté. Certains n'osent peut-être pas parler à l'heure qu'il est. Et pour le moment, l'analyse des objets retrouvés sur place après le passage à tabac n'a rien donné. Mais il reste d'autres pistes. Les enquêteurs misent sur le fait que les agresseurs pourraient se trahir d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux ou au sein de leur établissement scolaire, par exemple. Ils espèrent également que Yuri pourra les aider à les identifier lorsque son état de santé le lui permettra.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. 4 mois pour tenter de réformer la police. Le Beauvau de la sécurité s'ouvre ce lundi. Un cycle de réunions et de concertations destiné notamment à apaiser la profession et à renouer aussi le lien entre les forces de l'ordre et la population. Une fois encore, la sécurité routière a décidé de frapper fort, fidèle à ses campagnes choc. Cette fois, ce sont nos petits comportements au volant qui sont pointés du doigt. Ces moments d'inattention qui peuvent nous coûter très cher. Christophe Bourreau.
C'est une campagne inédite où l'on voit à travers 3 spots, nos voitures se transformer en armes. Le compteur devient ainsi un viseur et le pot d'échappement un canon, car même en ayant la sensation de ne pas commettre une faute grave, nos erreurs peuvent être fatales pour nous, mais aussi pour les autres.
J'avais roulé pendant des heures, j'aurais dû m'arrêter. Je me suis assoupi quelques secondes au volant. Quelques secondes qui ont suffi à prendre la vie de cette femme qui arrivait en face.
J'ai ramené Diane et Elodie, comme d'habitude j'avais rien bu. J'ai répondu à ce texto en conduisant. J'ai pas eu le temps de freiner et le choc contre cet arbre leur a coûté la vie.
SMS, vitesse ou encore l'endormissement au volant. L'idée est de nous faire comprendre et prendre conscience que nous pouvons éviter le pire, selon Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière.
On a la solution en nous. C'est-à-dire que effectivement, en faisant davantage attention, on est capable de maîtriser nos véhicules de manière à ce qu'ils ne se transforment jamais en armes.
Et cette campagne choc, composée de 3 spots, réalisée avec l'association Victimes et Citoyens, sera diffusée sur les réseaux sociaux dès cet après-midi.
Christophe Bourroux. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont appelés. Premier coup de téléphone entre les deux hommes. 4 jours après l'entrée en fonction du nouveau président américain, les deux chefs d'État qui ont pu constater leur volonté commune d'accélérer sur de nombreux sujets. Évidemment, la bataille contre le Covid et la lutte en faveur du climat. La paix au Proche et au Moyen-Orient également, notamment le dossier du nucléaire iranien.
7h08. Le groupe M6 et RTL tout de vert vêtu pour cette semaine green, en l'occurrence la semaine verte.
Les enjeux environnementaux, climatiques, les belles initiative également à l'honneur toute cette semaine sur notre antenne. Et voici un pari étonnant, un pari fou, diront certains, celui d'Airbus qui espère faire voler d'ici 15 ans Le premier avion entièrement propre, la révolution aéronautique est en marche. Expliquez-nous ça, Patrick Tégéro.
C'est l'avenir d'Airbus qui en dépend. Ce sera un avion à hydrogène. Vous savez, chez Airbus, on fabrique des missiles, des fusées. Alors l'hydrogène, on maîtrise. Mais aussi des satellites qui sont équipés de piles à combustible. Cette technologie-là, elle aussi, on la maîtrise. Mais il ne s'agit pas seulement de bricoler l'un avec l'autre. Glenn Llewellyn dirige le programme Zéro Émission chez Airbus.
Il y a quand même un travail pour rendre toutes ces technologies avionnables, certifiables. Avant 2025, il y aura des démonstrateurs en vol. Donc ça, ce que ça veut dire un démonstrateur, c'est qu'on va prendre un avion actuel et on va remplacer une des moteurs avec un système propulsif hydrogène.
La silhouette des avions va changer. On évoque même l'aile volante, car l'hydrogène prendra 4 fois plus de place que le kérosène.
Par exemple, l'avion sera un petit peu plus long. Derrière la zone passager, on peut imaginer l'installation des réservoirs et ça demande plus de fuselage que ce qu'on a aujourd'hui. Le but vraiment, c'est de rendre ça économique et commercial. Comme ça, il y aura un impact sur le climat positif.
Chez Airbus, on promet déjà aux compagnies aériennes un avion propre avant 2035. Dans l'industrie aéronautique, c'est tout simplement après-demain.
L'avion du futur, reportage signé Patrick Tégéro.
La semaine verte toujours, à 8h20, nous serons avec le patron de L'Oréal France, hein, qui nous expliquera l'implication de L'Oréal dans cette semaine. Le foot, les Lyonnais partaient favoris, n'ont pas été déçus. Hein. Victoire 5-0 hier soir face à Saint-Etienne.
Précisons que les Stéphanois étaient privés de 7 joueurs malades du Covid, mais ça, le classement n'en tient pas compte. Le résultat est là. Lyon conforte sa 3e place à 2 points de Paris et de Lille, tandis que les Verts s'enfoncent un peu plus dans la crise. Raphaël Vantard.
Surclassés sur le terrain, complètement absents dans certaines phases de jeu, démotivés au coup de sifflet final, les Verts égalent ce matin un triste record. La plus lourde défaite dans l'histoire du derby. 5-0 à domicile comme il y a 3 ans, mais sans public et sans envahissement de terrain ce coup-ci. La mine défaite, Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne, cherche ses mots, préférant d'abord un immense soupir.
On espérait un match d'une meilleure tenue, avec plus de qualité, plus de suspense et plus d'agressivité collective. Donc on est très déçus, et pour pas dire en colère, contre nous-mêmes. Et le jour d'un derby, on l'accepte pas.
Trop affecté, aucun joueur stéphanois ne s'est arrêté devant le micro RTL hier soir. Les Verts pointent ce matin à la 16e place du classement, à 4 points seulement de Nîmes, premier relégable. Au-delà de la suprématie régionale historique, c'est surtout des points précieux pour le maintien que Saint-Etienne a perdu dans ce 122e derby.
Raphaël Vantard. Et puis 6 victoires en 6 matchs pour nos handballeurs. Les Bleus se sont imposés 32-23 face au Portugal hier et se qualifient pour les quarts de finale du Mondial.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Cannes-sur-Mer.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 16, le 14, le 10, le 3, le 7, le 11 et le 2. La dernière minute, c'est le 3 Bozio.
Et c'était donc le journal de Dominique Tenza. 7h12, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors vous faites un constat, hein, le gouvernement goûte assez peu la critique en général, Olivier.
Oui, et au moment où l'on va probablement tous se reconfiner, c'est un sujet, car chaque confinement est plus difficile que le précédent et sera plus critiqué que le précédent. Pour les étudiants, pour les jeunes en général, pour les entreprises, pour le moral, c'est plus dur. Donc les débats risquent d'être un peu plus vifs. Et en général, les débats, le gouvernement n'aime pas trop ça. L'opposition, on n'en peut plus, confie un ministre un brin excédé. J'ai dit à Castex de les taper fort.
Mais pourquoi dites-vous qu'ils n'aiment pas les critiques ?
Regardez comme elles sont évacuées ou méprisées. C'est l'experte en opinion, Chloé Morin, qui le relevait ce week-end dans le Figaro. Lorsque le gouvernement ne veut pas traiter un débat, il dit que c'est une polémique. Pour appuyer sa démonstration, Chloé Morin reprend tous les événements de la pandémie jusqu'au début poussif de la vaccination. Jean Castex a parlé de polémique stérile qui n'apporte rien. Sauf que la polémique a bien fait accélérer les choses. Il n'y a pas de pénurie de vaccins non plus. Il y a trop de centres de vaccination, m'a expliqué un ministre vendredi. Tout est comme ça. Le gouvernement ne reconnaît jamais une seule erreur. Tous ceux qui s'interrogent ou qui critiquent font immédiatement partie des 66 millions de procureurs dénoncés par Emmanuel Macron jeudi dernier.
Alors le président a-t-il tort sur le fond et sur la forme ?
Alors sur la forme, il n'a pas tort. Nous avons collectivement la critique facile. Il n'a pas tort non plus parce qu'il profite d'un statut très particulier. C'est le chef en période de crise. Celui vers qui tout le monde se tourne ou se raccroche. Les études d'opinion l'ont confirmé encore en fin de semaine dernière. Malgré les débuts très poussifs de la vaccination, les cotes de confiance de l'exécutif, Emmanuel Macron et Jean Castex, sont remontées. Je vous renvoie à notre sondage BVA-RTL de vendredi. Tandis que les cotes de confiance des oppositions ont baissé, et notamment celle de Xavier Bertrand, que nous recevons tout à l'heure à 7h40.
Mais sur le fond, Olivier, le gouvernement a tort de rejeter les critiques ?
Bah oui, parce que cela ne laisse aucune place à une critique qui peut être objectivement constructive, voire utile. Quand un maire se mobilise pour avoir des vaccins, ce n'est pas forcément pour embêter le gouvernement ou pour sa réélection dans 5 ans et demi. Il est aussi dans son rôle d'élu, tout simplement. En rejetant les critiques, en les dénonçant comme des polémiques vaines, cela revient à mettre tout le monde dans le même sac. Les avis modérés se retrouvent au même plan que ceux des extrêmes ou des complotistes. La nuance n'est plus autorisée ni encouragée. Cela revient à réduire le jeu politique à une vaine bataille entre le camp du bien et le camp du mal. Le confinement à venir ne sera pas plus facile, ça c'est sûr. Et si on considère en plus par avance qu'on ne peut ni l'interroger, ni le critiquer, ça sera dur.
Merci Olivier Bosse. Toute l'actualité politique est à retrouver comme chaque jour sur RTL.fr à 7h40. Vous venez de le rappeler, Olivier, c'est Xavier Bertrand qui sera donc aujourd'hui l'invité d'Alba Ventura. Et dans un instant, nous partons en immersion avec les policiers de terrain alors que s'ouvre aujourd'hui le Beauvau de la sécurité. A tout de suite.
RTL Matin. Immersion.
Il est 7h15. Immersion est consacrée ce matin à une parole finalement rare, celle des policiers de terrain, à quelques heures de l'ouverture du fameux Beauvau de la sécurité. Bonjour Sinamir.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Après une année de polémique sur les violences policières, ce grand débat commence cet après-midi chez les forces de l'ordre. Il va durer 3 mois. Dans quel état sont nos fonctionnaires de police pour en arriver là ?
Eh bien, au centre du malaise actuel, il y a déjà un grand sentiment de lassitude chez les policiers. Derrière les boucliers en manifestation, par exemple. Pour le comprendre, on a d'abord embarqué dans les rues du 12e arrondissement de Paris. Avec une compagnie de maintien de l'ordre, dans le camion, on retrouve des fonctionnaires qui ne comptent plus les week-ends passés sur le terrain, les violences et les tensions systématiques qui vont avec.
La présence de ce soir, on a déjà 300-400 personnes qui se rassemblent.
Oui, c'est tout pour me donner, on fait mouvement.
À leur tête, le commandant Pierre, 14 ans de boutique, comme on dit, chargé avec ses hommes d'intervenir sur une rave party il y a 10 jours au milieu de la voie publique.
Deuxième sommation, obéissance à la loi. Dispersez-vous !
Dès qu'on avance... C'est des projectiles, c'est des canettes de bière, c'est des bouteilles en verre. Il y a encore quelques années, il y aura le fonctionnaire, le collègue aurait pu être agressé par un ou deux individus, puis le reste de la foule les aurait retenus, ou aurait même relevé le collègue pour le faire partir. Et là, on voit bien que ça s'est agrégé. Les gens regardent ou ils participent, mais ça reste un homme qui est à terre. Et on va se retrouver avec 5 ou 10 personnes dessus. Il y a quelque chose qui cloche.
Si vous voyez tout risque de débordement, il faut absolument filmer.
Et c'est cette volonté de nous mettre en porte-à-faux, ou d'attendre le mauvais geste, ou d'attendre la mauvaise parole, ou d'attendre, comme on dit, la bavure.
Ce qui sème en plus le doute dans les rangs, après la polémique autour de la loi de sécurité globale et la diffusion des images de policiers, la vidéo sera à nouveau un des chantiers centraux de ce Beauvau de la sécurité.
En raison des dérapages ou de la peur d'être pointé du doigt, à tort, c'est ça ?
Les deux, certains policiers de terrain le disent très sincèrement.
Parce que le problème, c'est qu'on verra pas les 14 ans où j'ai bien travaillé, on verra la fois où j'ai dérapé.
On a transformé la voix pour préserver son anonymat. À plus d'une dizaine d'années de maintien de l'ordre derrière lui, il y a quelques semaines, il a rangé son bouclier et demandé à changer de service.
Je suis entré par vocation et je reste pour l'alimentaire. Vous vous rendez compte ? C'est ça le pire. Quand il y a des gens qui vous crient « succédez-vous, succédez-vous », ça veut dire que notre vie ne vaut pas grand-chose. De mon point de vue, je ressens comme ça. Pour eux, ça veut dire qu'on est des sous-hommes, oui. Et quand on voit la réponse pénale, j'ai l'impression qu'ils vont dans leur sens.
Et à cela s'ajoute le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu par sa hiérarchie. Pour beaucoup, 2020 a été vécu comme l'année du police bashing permanent, d'une chasse aux policiers, médiatique, politique, pour reprendre leurs mots.
Bah ça va du chef de l'État, qui a de beaux discours, mais dès qu'il y a quelque chose, on est vite jugé sur une image. J'entends certains préfets qui prennent pas leurs responsabilités sur certaines choses. On a un objectif, on essaie de l'atteindre, on essaie de faire les choses plus proprement possible. Mais en manifestation, la propreté, ça n'existe pas. Donc oui, il y a des policiers qui déconnent, pour reprendre les propos d'une certaine personne. On est à l'image de la société, donc il y a forcément des collègues racistes. Mais si franchement on était ceux qui disent, je me demande dans quel état serait le pays.
Et par ailleurs, Sina, ce sentiment d'abandon se concrétise aussi dans le quotidien.
Avec des commissariats agrandis dans des Algeco, même si cela n'est pas nouveau, des conducteurs de patrouille peu expérimentés à cause du manque de gradés en région parisienne, dans certains cas.
Ce sera un des thèmes d'ailleurs de ce Beauvau. Hein.
Le manque d'encadrement, oui, et ce malgré des interventions risquées qui se répètent, 2 fois plus d'agressions de policiers en 15 ans notamment.
Quand vous arrivez à un stade où on est obligé de cacher qu'on est policier parce qu'on a les enfants qui vont à l'école, si les copains, copines apprennent que le père est policier, bah non, c'est plus une fierté.
Et pourtant, David, que vous entendez, est ce qu'on appelle dans le jargon, un baqueux. Un policier membre d'une brigade anticriminalité de nuit qui en a vu plus de 20 ans de maison, délégué du syndicat Alliance, il comprend aujourd'hui que le métier ne fasse plus envie.
Quand vous arrivez d'une région de province où vous êtes dans un petit village, et que vous arrivez en région parisienne et qu'on vous lâche dans la nature, alors moi je suis arrivé d'une école de province, j'avais 8 jours pour trouver un appartement, beaucoup de collègues sont en hôtel. Et vous arrivez avec maintenant 1200, 1300 euros, alors que vous êtes fonctionnaire de police, à subir des insultes, des crachats, des violences. Quand on rentre chez soi, on a besoin de décompresser.
L'accompagnement, c'est pourtant le grand absent de la feuille de route de ce Beauvau. Pas vraiment dans la culture de la maison de s'épancher sur le poids d'interventions traumatisantes. Et pourtant, cette accumulation est bien une des clés des violences policières.
Vous allez prendre le couloir.
Le docteur Chariot dirige l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Bondy. Il voit passer chaque année des centaines de policiers blessés dans son bureau.
Quand un automobiliste ou un conducteur de scooter fonce dans un barrage de police, ça, ils n'ont pas de difficulté à en parler parce que ça, c'est spectaculaire. Quand c'est être traité de fils de pute 10 fois par jour, ça, ils vont pas en parler parce qu'ils considèrent que ça fait partie du métier. Ça fait partie d'aucun métier d'être traité de fils de pute 10 fois par jour. Je suis convaincu que dans les causes des violences policières, il y a le fait que les policiers eux-mêmes se sentent mal et ne sont pas reconnus. Donc à partir du moment où on ne se sent pas protégé par l'institution, on n'est pas en mesure de protéger la population qu'on est censé protéger. Donc ce sont 2 faces d'une même médaille.
2 faces, les violences policières, les agressions contre les policiers à l'origine de ce Beauvau de la sécurité, avec en toile de fond la crainte dans les commissariats que ce grand débat soit fait pour calmer les syndicats de police une fois de plus et qu'il accouche d'un rendez-vous manqué.
Je suis rentré par vocation, je suis resté pour l'alimentaire, vous a dit un de ces policiers qui témoigne dans ce reportage. Merci beaucoup Sinamir. Immersion dans le malaise des forces de l'ordre à retrouver en podcast et en format encore plus riche, hein, comme chaque mois sur l'appli RTL, sur notre site internet et sur vos plateformes de podcast favorite. Dans un instant, la météo Louis Bonin, les grosses têtes avec Laurent Ruquier, notre pépite musicale avec Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À tout de suite.
Oui, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23, on retrouve notre pépite musicale quotidienne avec vous, Anthony Martin.
Le 25 janvier 1956, il y a donc 65 ans jour pour jour,
oui.
Georges Brassens entrait en studio au théâtre de l'Apollo à Paris pour une séance unique dans sa carrière, l'enregistrement de 3 de ses chansons en espagnol. Au programme, la pata de Juana, la canne de Jeanne, oui. El testamento, le testament, et la mala reputación, la mauvaise réputation.
Bah oui.
Les disques de Brassens se vendaient à prix d'or en Espagne au sein de la communauté française. Voilà pourquoi le chanteur s'était laissé convaincre. Voici ce que donne la mala reputación. C'est notre pépite du jour. Georges Brassens chante la mauvaise réputation en espagnol.
En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Es natural. Oui. Pour traduire ces textes, oui, les fluides en espagnol. Alors, pour traduire ces textes en espagnol, Georges Brassens avait fait appel à son ami provençal Pierre Pascal, professeur de lettres et interprète à 16 heures. Ces traductions, au départ destinées au guitariste Paco Ibáñez, font référence encore aujourd'hui, plus que celles de Ramón Chao, le père de Manu Chao. Et le traducteur Pierre Pascal, on l'entend dans cet enregistrement, interrompt Brassens pour qu'il prononce bien. Rare trace de Georges Brassens au travail.
Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tradesmi todos a correr.
Pues, tradesmi todos.
Pues,
tras de mí. Bien, y tras de mí.
Tras de mí todos.
Trades, olvido de.
Tras de mí todos a correr.
A ver, on y va.
Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla lo oyó el señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer.
Et voilà, là il l'a bien dit. Georges Brassens chante en espagnol. Voilà, il ne parlait pas, hein, Georges Brassens. Il chantait en phonétique, de façon très appliquée mais fluide. Il a fallu attendre la sortie de l'intégrale Brassens en 91, 10 ans après sa mort, pour découvrir ses documents en espagnol. Et cette année, on le signale, 2021 marque les 40 ans de la disparition de Georges Brassens.
Uno tenga su propia fe, que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar. Salvo los muros, es de pensar.
Merci beaucoup Anthony pour ce formidable document. Et pour encore plus de musique et de surprises, rendez-vous à partir de 21h dans Bonus Track avec Éric Jean-Jean. Notre rendez-vous avec les grosses têtes et Laurent Ruquier, il est fixé à 15h30 et ce matin, nous partons dans les coulisses du musée Grévin.
Ah oui, ils n'ont pas perdu de temps, Grévin. J'ai même vu les images hier. Effectivement, ils ont déjà démonté la statue de Donald Trump. Et c'est vrai qu'il paraît, ça, je trouve ça un peu étonnant, mais en tout cas, c'est ce qu'a dit le directeur.
Pourquoi il doit dans le nez ?
Il paraît que les gens se photographient avec le... Ils foutaient les doigts dans le nez de Donald Trump.
Ah ben, qu'est-ce qu'ils feront quand tu auras ma statue ?
Non, mais les gens touchent les statues au musée Grévin.
Ah oui,
c'est vrai.
Vous
oui.
y êtes, voir rien ?
Ah mais j'y suis, oui, absolument. Ah oui, tout en paillettes, et je suis ravie d'être là.
Ah, j'ai cru qu'il était tout en paillettes.
Tout en paillettes, oui. J'avais compris ça bientôt.
Et voilà. Ils changent les statues de place de temps en temps.
Oui, ils changent les statues de place. Et aussi, on va dans un purgatoire quand on est démodé. Et ensuite, on va aux enfers, la cire est brûlée.
Rendez-vous avec Laurent Ruquier dès 15h30. Il sera accompagné aujourd'hui de Gérard Jugnot, Chantal Latsou, Florian Gazan, Daniel Picouli, Christine Bravo et François Rollin. Il est 7h28, très exactement. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Yves.
Comment se profile la météo de cette journée, s'il
vous plaît ? Ça devrait aller de mieux en mieux dans la plupart des régions. Alors, progressivement, il faut être encore un peu patient. Ce matin, là, je vois qu'il y a quelques flocons en Normandie, un peu dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a encore beaucoup de pluie au pied des Pyrénées, là, au sud de la Garonne. Et puis de la neige dans le Nord-Est, notamment Lorraine, Alsace, ou encore du côté de la Franche-Comté, de la neige également dans les Alpes du Nord, mais ailleurs, déjà on retrouve un temps sec, et puis au fil des heures, bien, les éclaircies vont devenir de plus en plus belles, donc c'est-à-dire cet après-midi, du soleil, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, du Val-de-Loire à l'Île-de-France, il va revenir également sur la Champagne, dans le Massif central, dans le Sud-Ouest également, du côté de l'Aquitaine, alors sauf au pied des Pyrénées, où il restera quelques pluies, voire un peu de neige sur ce relief pyrénéen, soleil également dans la vallée du Rhône, près de la Méditerranée, il n'y a que dans le Nord-Est, hein, entre la région Rhône-Alpes, Alsace, Lorraine, où là ça restera nuageux, avec encore quelques flocons, un peu d'instabilité également sur la Corse où le vent restera très fort. D'ailleurs, il y aura aussi un peu de mistral et de tramontane. Donc, amélioration, plus de lumière cet après-midi. Côté température, on est encore autour du 0 degré ce matin dans la plupart des régions, même quelques gelées. Et cet après-midi, ça reste froid. Hein. 1 à 3 degrés seulement, Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté. 5 à 6 degrés dans les autres régions de la moitié nord. 8 à 10 degrés dans le sud-ouest et 11 à 13 quand même. Près de la Méditerranée.
En quelques mots, on est parti pour une semaine fraîche.
Alors non, on aura encore mardi froid, mais à partir de mercredi, changement radical de temps avec malheureusement de la pluie, mais une très nette remontée des températures.
Merci beaucoup Louis Baudin, RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 25 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et l'émotion ne retombe pas après l'agression sauvage du jeune Yuri dans le 15e arrondissement de Paris. L'adolescent de 15 ans a été violemment passé à tabac sur la dalle Beaugrenelle. La vidéo de cette agression a suscité énormément d'émotion, des tweets de soutien d'Antoine Griezmann ou Omar Sy, un coup de fil de l'Elysée. Yuri est sorti du coma mais il est très grièvement blessé, notamment au crâne. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre bandes. Un phénomène de plus en plus inquiétant selon le criminologue Xavier Hoffer.
Les bandes sont toujours territoriales. Ce territoire, les bandes peuvent être amenées à le défendre. Puis des bagarres pour des motifs plus futiles aussi. Le mauvais regard, le défi entre jeunes hommes, entre jeunes coqs, avec une propension à utiliser toujours plus d'armes blanches. Des jeunes gens qui, quand ils ont 12 ou 15 ou 16 ans, sont capables de se livrer à des actes comme le lynchage du jeune Yuri. Certains d'entre eux vont devenir des criminels. C'est pour ça qu'il faut bloquer ce genre de comportement le plus tôt possible, de manière à éviter ces dérapages vers le crime.
Xavier Hofer avec Valentin Boissé. C'est aujourd'hui que s'ouvre le Beauvau de la sécurité. 4 mois de discussion pour s'attaquer aux 7 péchés capitaux de la police. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Il sera question notamment de la formation, des moyens ou encore des captations vidéo.
Un troisième confinement semble inévitable. La question maintenant, c'est quand ?
Le journal du dimanche évoquait hier une prise de parole d'Emmanuel Macron mercredi soir après le Conseil de défense sanitaire. Des informations qui auraient furieusement agacé le chef de l'État. Officiellement, aucune décision n'est prise. En fait, l'exécutif se donne un peu de temps pour mesurer l'effet du couvre-feu dès 18h et la propagation du variant britannique. Une hésitation coupable selon Jean Rottner, le président LR de la région Grand Est. Il était hier l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
Est-ce qu'on veut la fin d'une catastrophe ou une catastrophe sans fin ? Voilà la question qui aujourd'hui s'adresse à notre gouvernement. Moi, je suis plutôt pour la fin d'une catastrophe et un confinement. C'est un courage politique qui doit être compris par chacun de nos concitoyens.
Autre invité du grand jury, l'infectiologue Karine Lacombe, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine. Et pour elle aussi, il faut reconfiner sans attendre. Par ailleurs, elle n'est pas favorable à l'allongement du délai entre les 2 doses de vaccin.
Après une seule dose, on n'a pas atteint un niveau de protection suffisant pour ne pas être infecté. Et si on espace trop les doses, eh bien il se peut qu'on n'atteigne jamais ce niveau suffisant d'anticorps pour être protégé. On l'a vu en Angleterre, hein, beaucoup de personnes qui ont été vaccinées au mois de décembre ont contracté la maladie à la fin du mois de décembre. En même temps, malheureusement, le vaccin est actuellement une ressource rare et on aurait envie de vacciner le maximum de monde en attendant que les vaccins arrivent. Le problème, c'est que tous les jours, on apprend qu'il y a des décalages. On a du mal à faire des prévisions, en fait.
Karine Lacombe, malgré le couvre-feu, la pression sur les hôpitaux ne retombe pas. On a franchi hier la barre des 26 000 malades du Covid hospitalisés, dont près de 3 000 en réanimation. On est au plus haut depuis décembre.
7h32, le maire d'Oradour-sur-Glane a l'intention de porter plainte. Un clip de rap a été tourné sur sa commune sans autorisation.
Oradour, c'est ce village martyr, tout près de Limoges. Presque toute la population a été exécutée en juin 44 par une division Waffen-SS, 643 personnes. Et voilà que dans les ruines de ce village, un chanteur a tourné une vidéo inacceptable pour Philippe Lacroix, le maire d'Oradour.
Je pense que les gens ont gardé quand même, je l'espère, un certain bon sens et qu'ils peuvent comprendre qu'on ne tourne pas ce type de clip dans un lieu qui est un lieu de pèlerinage, puisque je dis toujours que quand on vient à Oradour, on est en pèlerinage, eu égard aux 643 martyrs du massacre d'Oradour. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. À un moment donné, si vous laissez instaurer le laxisme dans les lieux de mémoire, c'est la porte ouverte à tout.
Le maire d'Oradour, Philippe Lacroix, au micro RTL de Philippe Demaria. L'association L214 diffuse une nouvelle vidéo choc tournée cette fois dans un élevage porcin des Côtes d'Armor. On y voit au moins une vingtaine de cadavres de cochons en putréfaction, d'autres corps grignotés par les rats. La coopérative de l'éleveur parle elle-même d'images insoutenables. Au Portugal, le président sortant Marcelo Rebelo de Sousa est réélu dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Un scrutin marqué par la percée de l'extrême droite. Le candidat du parti Chega, André Ventura, engrange presque 12% des suffrages.
C'est un moment historique, car pour la première fois, un parti ouvertement anti-système casse le champ de la droite traditionnelle. Avec près d'un demi-million de voix, nous faisons plus que les 3 candidats de gauche réunis. Enfin, il y a une alternative au Portugal.
André Ventura du parti d'extrême droite Chega au Portugal. Emmanuel Macron et Joe Biden, eux, ont échangé hier soir leur premier coup de fil depuis l'investiture du nouveau président américain. Selon l'Élysée, ils ont une grande convergence de vues, notamment sur la lutte contre le Covid et le réchauffement climatique.
Le football, maintenant, Lyon n'a fait qu'une bouchée de Saint-Etienne.
Les Lyonnais l'ont emporté 5-0 hier soir à Geoffroy Guichard. L'OL a désormais plus de victoires en derby que les Stéphanois. Et surtout, il revient à 2 points des leaders Paris et Lille. Le LOSC qui est allé battre Rennes 1-0. Bordeaux, de son côté, a battu Angers 2-1. Victoire de Metz sur Nantes 2-0. Reims l'a emporté sur Brest 1-0 et match nul un partout entre Dijon et Strasbourg. Au mondial de handball en Égypte, les Bleus se sont qualifiés hier pour les quarts de finale grâce à leur victoire 32-23 sur le Portugal, l'équipe qui les avait sortis un peu vite justement de l'Euro l'an dernier. 6 victoires en 6 matchs, nos handballeurs peuvent être contents, mais l'entraîneur Guillaume Gilles ne veut pas s'emballer.
C'est une bonne note pour l'équipe de France et en même temps, je fais un peu le rabat-joie de service, il ne nous permet juste d'accéder uniquement au quart de finale, donc ce qui est une très belle réussite en soi, mais le véritable moment clé, c'est ce quart de finale et il faudra être présent, sinon tout ce qu'on a pu construire va aussi disparaître.
Et mercredi, les Bleus affronteront le perdant du match Espagne-Hongrie qui se joue ce soir.
Oui, on vous retrouve à 8h40 pour la revue de presse.
Absolument, on verra que la dépression, Yves, la dépression, ce n'est pas que dans la tête, c'est même surtout dans le ventre, et oui.
À tout à l'heure, Isabelle Choquet, merci beaucoup. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Alors, aux États-Unis, la stratégie vaccinale est en voie d'accélération avec des acteurs tout à fait inattendus.
Oui, hein. Figurez-vous qu'il y a des stocks très importants de vaccins aux États-Unis, et ce sont donc les supermarchés qui se proposent de vacciner la population. Amazon et Walmart sont en pointe, si je puis dire, à propos de seringues. Je vous raconte ça dans un instant.
Vous expliquez ça dans un instant, à tout de suite.
TL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Angleco avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Aux États-Unis, c'est la grande distribution qui se propose d'organiser la vaccination pour les consommateurs.
Oui, alors que la France et l'Europe sont engluées dans une campagne poussive de vaccination contre le Covid, l'Amérique s'apprête à emprunter une voie originale, la vaccination en supermarché. Avec le numéro 1 mondial de la grande distribution, c'est Walmart, l'idée c'est de profiter de ces 5000 points de vente sur le territoire, supermarchés, magasins de proximité et plus encore les pharmacies que possède le groupe dans les centres commerciaux pour accélérer l'immunisation de la population, particulièrement dans les zones reculées où il n'y a pas forcément de dispensaire, oui, mais où les habitants se rendent au magasin pour s'approvisionner. Les États-Unis souffrent en effet d'un problème inverse à celui de l'Europe. Il y a des vaccins en stock, mais on ne les utilise pas ou pas assez, faute de logistique suffisante. Seuls 19 millions de doses ont été administrées. Bon, ça avait quand même rêvé vu de chez nous. Il en reste autant dans les armoires, une situation que l'administration Biden attribue à ses prédécesseurs et qu'elle veut corriger sans délai.
Alors, si yaourt est un vaccin, cette logistique, une chaîne de supermarchés, c'est-elle l'affaire ?
Ce sont des spécialistes de la logistique, avec l'acheminement, le stockage, même la réfrigération, oui, de milliers de références sur le territoire américain. Ils ont un savoir-faire. D'autant plus utile que le vaccin lui-même doit être livré à flux tendu, compte tenu du faible nombre de jours où il peut être stocké à température normale. Walmart a du reste commencé à vacciner des professionnels de santé dans l'Arkansas, c'est l'État américain duquel l'entreprise est originaire, oui, à Bentonville, et puis au Nouveau-Mexique, et projette d'étendre l'opération à bon nombre d'États du sud du pays. Amazon, le géant du commerce en ligne, a lui aussi ouvert un centre de vaccination à Seattle, c'est la ville où se trouve son siège, et veut développer cela. Lui aussi, il propose d'utiliser son expérience, ses infrastructures. Il possède une centaine de gigantesques entrepôts aux États-Unis. En fait, Walmart et Amazon sont capables, l'un et l'autre, de livrer des millions de références dans la journée sur une bonne partie du territoire. Ça peut servir.
Alors, ils se lancent dans la vaccination par philanthropie ?
Sûrement, mais pas seulement. On peut le supputer. Il y a bien sûr une dimension communication. Il y a un geste politique vis-à-vis de la nouvelle présidence Biden. Mmh. Et puis aussi, un intérêt à vacciner rapidement leurs propres salariés. Ce sont les deux premiers employeurs du pays, et même parmi les plus gros employeurs du monde, avec plus d'un million de personnes pour Walmart.
Alors, peut-on imaginer que, par exemple, en France, Carrefour ou Auchan fassent la même chose ?
Pas sûr, parce que d'abord, on manque de produits, ensuite, Carrefour et Auchan ne possèdent pas en propre de pharmacie, et puis, ils ont beaucoup moins développé la logistique que Walmart et Amazon, parce qu'ils étaient jusqu'ici concentrés sur la vente en magasin, oui, et non pas sur les livraisons à domicile. De ce point de vue, c'est Walmart qui est une exception en ayant adopté le modèle du e-commerce. La semaine dernière, il annonçait par exemple le lancement d'un système de paiement dématérialisé. Il possède un programme de fidélité pour développer les livraisons très similaire à celui d'Amazon. Mmh. Il a même créé sa marketplace sur Internet exactement comme Amazon. Il a investi, tenez-vous bien, dans le réseau social TikTok également. Et c'est le grand gagnant de la crise sanitaire. Ses ventes en ligne ont progressé de 70% en 2020.
C'est très impressionnant. Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur l'application mobile RTL pour écouter votre hors-série de l'Angleco sur l'impact de l'épidémie dans la grande distribution. Il est 7h41. Bonjour Alain Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, ancien ministre de la Santé. Il a été particulièrement critique avec le gouvernement. Je lui demanderai quelles sont ses propositions sur le reconfinement, sur la vaccination.
A tout de suite avec Xavier Bertrand sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h44, merci d'écouter RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'ancien ministre de la Santé, désormais président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Les jours qui viennent vont être décisifs avec des variants anglais et sud-africains qui menacent. Les spécialistes du Conseil scientifique appellent à anticiper. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il faut reconfiner sans tarder ?
Je ne vois pas comment nous éviterons un reconfinement. Et pour les raisons que vous évoquez, il y a la question du variant, des variants, le variant anglais, peut-être le variant sud-africain, le variant brésilien, qui change la donne. Et là, plus que jamais, il nous faut anticiper. Il faut éviter d'avoir un temps de retard par rapport à une nouvelle explosion de l'épidémie. Et pour cela, il faut prendre les mesures qui s'imposent le plus rapidement possible.
Mais pour vous anticiper, ça voudrait dire que dès le week-end prochain, il faut un reconfinement strict, fermer les écoles.
Le président du Conseil scientifique, hier soir, était quand même très clair. Donc nous n'avons pas, nous, les éléments scientifiques dont dispose le président de la République, le gouvernement. Mais une chose est certaine, il ne faut pas hésiter. Parce que, en attendant de pouvoir vacciner toute la population, il y a une chose qui est importante, c'est de protéger et de se protéger. Ce virus continue à tuer.
Mais on est en retard sur un éventuel confinement, puisque anticiper, ça voudrait dire prenons les devants, enfin allons-y maintenant, ne perdons pas de temps. C'est ça qu'on entend.
C'est ce que disait le président du Conseil scientifique et de très très nombreux scientifiques. D'autre part, vous le savez, autour de nous, il y a déjà eu un reconfinement. Est-ce que ce sont des modalités comme au mois de mars, comme au mois de novembre? Là, c'est en fonction des éléments scientifiques dont dispose le président que les choix doivent être faits. Mais pour nous protéger, il ne faut pas hésiter.
Jean-François Delfraissy, justement le président du Conseil scientifique, disait ce week-end, il va falloir dans les semaines qui viennent aussi que les personnes âgées s'auto-confinent pour permettre aux plus jeunes de vivre une vie plus normale. Il a raison.
Il faut surtout les vacciner, nos aînés. Ce sont les plus fragiles. Ce sont ceux qui sont les plus exposés et qui attendent aujourd'hui impatiemment de pouvoir se faire vacciner. Et c'est aussi le message que je voulais passer aujourd'hui. Nous allons avoir besoin d'accélérer la vaccination dans les semaines qui viennent. Dès que les doses seront disponibles en nombre suffisant, il va falloir vacciner, si on prend les chiffres du ministre de la Santé, 10 fois plus de personnes par mois que ça n'a été le cas le mois dernier.
Ça veut dire combien, 10 fois plus ?
Aujourd'hui, on a vacciné en un mois, avec des débuts difficiles, 1 million de personnes. Si c'est toute la population à l'été, ça veut donc dire qu'il faudra vacciner 10 millions de personnes par mois. 10 fois plus. 10 fois plus. Ce qui veut dire qu'il va falloir que l'on fasse bloc, mais faire bloc ensemble. Le gouvernement et l'ensemble des élus. Que nous arrêtions de nous regarder en chien de faïence les uns et les autres. Qu'on ait tous ces débats. Qui fait mal, qui fait pas assez bien, il faut qu'on arrête ça. C'est une question d'intérêt national. Et nous ne réussirons cette accélération de la vaccination que si nous travaillons tous ensemble.
C'est le nouveau Xavier Bertrand que j'ai devant moi, parce que vous avez quand même tapé comme un sourd depuis des semaines sur le gouvernement. Et vous aviez déploré la lenteur de la campagne de vaccination. Vous parliez de fautes gravissimes, donc vous n'en êtes plus là, Xavier Bertrand.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Le gouvernement a changé d'attitude. Il a accéléré la vaccination, ce qui n'était pas possible avant ces remarques. Sont devenus possibles ensuite. On ne s'est pas contenté de vacciner dans les EHPAD. On a vacciné toutes les personnes de plus de 75 ans en fonction des doses disponibles. On a vacciné également les soignants. Ce qui montre que dans une démocratie, le débat, le rôle de l'opposition, l'opposant que je suis, quand nous nous exprimons, c'est aussi pour améliorer les choses. Et le gouvernement, sous la pression, a commencé à agir. Mais ce que je veux vous dire...
Donc ce matin, vous êtes un opposant qui ne s'oppose plus bêtement. Vous tendez la main, c'est ça ?
Écoutez, quand vous dites bêtement... C'est pas très sympa, mais...
Parfois, les oppositions sont stériles.
Oui, mais là, ça a fait bouger les choses. Il faut quand même en convenir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que demain m'intéresse beaucoup plus qu'hier. Et demain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, que dans la région des Hauts-de-France, j'ai aujourd'hui 100 de centres de vaccination. Si on doit vacciner 5 fois, 10 fois plus de monde, il faut ouvrir 5 fois, 10 fois plus de salles de vaccination. Et pas forcément des vaccinodromes immenses. C'est aussi des lieux de vaccination dans nos campagnes, dans les centres-bourgs. Nous avons, nous, recensé des 100 de lieux supplémentaires. Dès qu'il y a les doses, j'attends le feu vert du gouvernement. Nous aurons besoin également... certainement de bus pour transporter les équipes ou de transporter les personnes qui veulent se faire vacciner. Si ce n'est pas elles qui vont au vaccin, c'est le vaccin qui doit aller vers elles. Des centaines de bus, de véhicules, on peut le faire. Il faut les doses, j'attends le feu vert.
Et alors j'allais dire, parce qu'en termes de logistique, je vois que vous avez étudié la question, mais comment on fait quand on n'a pas les doses ? On n'a pas les vaccins ?
Les doses, elles vont arriver. Cela a été dit, cela a été confirmé.
Vous voyez qu'il y a des gros problèmes de production. L'Italie veut même porter plainte contre Pfizer. La Belgique attendait 60 000 doses. 100 000 doses, elle n'en a eu que 60 000. AstraZeneca, dont on attend l'autorisation, explique déjà qu'il va réduire ses livraisons à l'Europe.
La vérité, c'est que tout le monde pensait que les vaccins arriveraient à partir du printemps. Le fait que ça arrive en décembre a créé aussi une attente importante. Moi, je suis toujours, vous savez, dans tous ces sujets-là, vérité et transparence. Mmh. La vérité sur ce qui est commandé, la transparence sur ce qui sera livré. Mais ce que je veux bien vous montrer, c'est que pour l'accélération de la vaccination, il faut qu'on soit au rendez-vous. Et pour être au rendez-vous, c'est tous ensemble. Alors, il n'y a pas de rivaux, il n'y a pas d'adversaires, il n'y a que des acteurs, les élus, l'État, qui doivent travailler ensemble parce que l'épreuve que nous allons à nouveau traverser, vu l'état du pays, vu l'état des Français, impose que nous nous rassemblions. On reparlera de tout ça plus tard, dans quelques mois. Mais en attendant, on se serre les coudes.
Mais pourquoi vous avez peur de quoi ?
Parce que je vois qu'aujourd'hui, on a des Français qui sont à bout. Qui ont le sentiment d'avoir fait des efforts immenses comme jamais ils pensaient qu'on aurait à en faire hors période de guerre. On a aujourd'hui une économie, des chefs d'entreprise qui ont peur vraiment de perdre leur entreprise. Pensez à tous ces commerçants, ces restaurateurs, le secteur de l'événementiel, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, ceux qui ont du mal à remplir leur frigo. Et aujourd'hui, on ne peut pas donner le sentiment que chacun est de son côté dans son couloir. On est à leur service, on bosse pour eux et on bosse ensemble. J'aurais aussi insisté sur un point. Il y a la question de la vaccination. Il y a ces nouveaux variants. Prenez notamment, on a une opération qui est très importante qui s'appelle le séquençage du variant pour tout savoir sur ces variants. Nous avons aussi à Lille, par exemple, les équipes du professeur Frogel qui sont disponibles. Nous attendons le feu vert de l'État pour pouvoir justement faire ces travaux, tout savoir de ce variant pour encore une fois nous protéger.
Vous tendez la main, on l'entend concrètement, ça veut dire quoi ? Vous allez appeler Emmanuel Macron et lui proposer, en sortant de ce studio, un rendez-vous ?
Oui, je souhaite que nous puissions avoir un nouveau dialogue avec l'État, de façon encore une fois à chercher à être efficace. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, Angela Merkel a passé 7h30 dans une visioconférence avec l'ensemble des présidents des lenders pour voir avec eux comment être efficace. Le président de la République ou le Premier ministre, on aurait certainement, lors d'une rencontre comme celle-ci, des choses à dire, des choses à proposer, et encore une fois, pour rechercher l'efficacité maximum. Mmh.
Le Premier ministre l'a fait avec les partis, mais effectivement, peut-être pas avec les présidents de région. Vous pensez, Xavier Bertrand, qu'on peut tenir des élections régionales dans ce contexte sanitaire, au mois de juin prochain ?
Écoutez, il y a une clause de revoyure au mois d'avril. La seule chose qui compte, c'est de savoir où en sera la situation sanitaire et comment nous pourrons justement pas seulement tenir l'élection le jour même, mais bien évidemment faire campagne. Mais il y a aussi un autre point qui est important. C'est que dans la période que nous connaissons, et certainement que nous allons à nouveau connaître, la démocratie ne peut pas être confinée. Elle peut pas être confinée. Et je pense que quand vous nous reprochez justement tel ou tel propos, il faut bien voir qu'aujourd'hui...
C'est-à-dire, je voulais vous demander si vous étiez sensibilisé par les 66 millions de procureurs dans notre pays. Ce sont les propos qu'a tenus le président.
Elle passe mal, cette phrase. Mais là encore, on y reviendra plus tard. D'ici quelques mois. En attendant, la seule chose...
C'est vraiment un nouveau Xavier Bertrand que j'ai en face de moi.
Mais je sais pas, vous, ce week-end, mais moi j'ai vu des gens, ils en ont marre. Ils en peuvent plus de cette situation et aussi des polémiques. Ce qui est très important de voir, c'est que on est face à des victimes plutôt qu'à des procureurs. Les Français sont victimes du Covid, ceux qui ont perdu des proches, ceux qui ont été malades, ceux qui sont victimes de l'isolement, nos aînés, les jeunes, les étudiants, et pas seulement les étudiants, ceux qui ont peur pour leur avenir, pour leurs enfants. Donc ce sont des victimes, les Français, aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une forme d'incompréhension du président vis-à-vis des Français, et aujourd'hui, des Français vis-à-vis du président, et on n'a pas besoin d'une telle incompréhension. Mais je voulais vous dire, sur cette question démocratique, aujourd'hui, quand on a quelque chose à dire, c'est au micro d'une radio, sur un plateau de télévision, sur les réseaux sociaux. Vous ne pensez pas qu'il serait important d'avoir, par exemple, chaque semaine, à l'Assemblée nationale et au Sénat, un vrai débat politique, un vrai. Parce que c'est là que se joue la démocratie, notamment à l'Assemblée avec des représentants élus par les Français. Mais pas les questions au gouvernement.
Mmh, un
débat,
vrai débat
de plusieurs heures, où le gouvernement, vérité et transparence, donne les informations qu'il a. Il dit aussi ce qu'il ne sait pas et il entend les positions, les propositions des oppositions. Vous savez pourquoi ? Pour faire avancer les choses.
Xavier Bertrand, que vous inspirent les images du petit Youri qui s'est fait tabasser sur la dalle du 15e arrondissement de Paris ? C'était il y a plus d'une semaine.
Un sentiment d'horreur, de barbarie, de violence. On pense forcément aussi à ses enfants. Je pense aux miens qui sont aussi adolescents. Et puis, un autre point, c'est qu'en août dernier, je dénonçais le climat d'une France orange mécanique avec cette violence gratuite. On ne peut pas laisser se produire de tels faits. On ne peut pas voire régulièrement de telles tragédies. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des tragédies. Et donc il nous faut engager tout un plan d'action pour démanteler les bandes et surtout qu'il n'y ait plus ce sentiment d'impunité. Vous savez quoi ? Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre sécurité, de la protection des biens des personnes et de nos enfants. Et pour cela, au moment où s'ouvre le Beauvau de la sécurité, il y a une question de moyens, c'est vrai, une question de formation, mais aussi de soutien et de respect de nos forces de l'ordre.
Xavier Bertrand, vous avez vu Nicolas Sarkozy mercredi dernier, il vous a dit « si tu es à 18% en septembre, tu as plié le match, sinon ce sera compliqué ». Alors j'ai regardé, vous êtes à 15-16, Valérie Pécresse est à 14, vous n'avez pas encore plié le match. On verra en septembre.
Et ce qu'on se dit avec Nicolas Sarkozy reste entre Nicolas Sarkozy et moi.
Merci beaucoup Xavier Bertrand.
Je ne vois pas comment nous pourrions éviter un reconfinement. Le président du Conseil scientifique a été très clair, vient de nous dire Xavier Bertrand. Nous ne réussirons la vaccination qu'en travaillant ensemble. L'état du pays impose une coopération. Nous ferons les comptes plus tard, vient de nous dire le président de la région des Hauts-de-France. Merci beaucoup. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous accueillons Cyprien Sini.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Cyprien, vous surfez ce matin sur l'effet galette des rois.
Ouais, on l'avait pas vu venir celui-là. Hein. L'effet galette, et dire qu'il y a 12 jours, on était encore plein d'espoir quand le Premier ministre nous disait
« La situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement. »
Et hier matin, surprise.
On n'est pas là pour vous faire peur ce matin, mais voici tout de même la une du journal de dimanche. Reconfinement imminent.
Ouais, ça fait quand même un peu peur au réveil. Hein. Et même si au gouvernement, le porte-parole Gabriel Attal temporise.
Il n'y a pas de décision prise.
Ça sent pas hyper bon quand même. Alors pourquoi ? Pourquoi les cas remontent ? Pourquoi risque-t-on le reconfinement ? Eh bien en partie, à cause de ça.
La galette des rois, bien sûr.
La galette, c'est un rituel.
La galette des rois.
La galette des rois.
La galette des rois.
J'aime la galette.
Eh oui, c'est ce que les experts appellent dans leur jargon l'effet galette. Alors je vous cite le journal du dimanche. Hein.
Oui.
Les projections font redouter une hausse exponentielle à cause des variants, sans compter la crainte d'un effet galette des rois évoqué par certains experts. Bon alors des experts quand même un peu légers hein, dans leur analyse, puisqu'ils se gardent bien de trancher entre...
Il y a celle à la frangipane, mais aussi la brioche.
Frangipane ou fruits confits ?
Frangipane ou brioche.
Ouais, là, ils se mouillent pas, hein, les non. experts. Bref, un effet galette, frangipane ou brioche, qu'il faut bien le reconnaître, personne n'avait vraiment anticipé. Autant celui-là...
Il faut éviter l'effet Thanksgiving.
L'effet Thanksgiving, bon, on était pépère, hein, ça se passait très très loin. Autant celui-là...
L'effet de Noël.
L'effet Noël, bon, ben, on l'avait un peu préparé, hein, tout comme l'effet Nouvel An. D'ailleurs, tellement bien préparé qu'on a même eu droit aux félicitations du Premier ministre.
Nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique grâce au comportement responsable qui a été le vôtre.
Oui, bravo merci, la France, merci. Bravo les Français. Vous avez été très bons sur Noël. Mais alors en revanche, hein, visiblement sur la galette, c'est pas terrible, terrible. Bon, évidemment, avec la complicité du couvre-feu à 18h, on a aussi vaincu...
L'intérêt du couvre-feu à 18h, c'est... de contrer l'effet apéro.
On a terrassé l'effet apéro grâce à l'effet tisane en charentaise à 18h à la maison. Mais c'est désormais le reconfinement qui se profile. En même temps, eh bien, on a bien raison de se préparer parce que bientôt, on va avoir...
Vive les bonnes crêpes !
Les crêpes de l'effet Chandler suivies par...
La chasse aux œufs.
Chasse aux œufs.
Une immense chasse aux œufs.
L'effet chasse aux œufs de Pâques. Autant vous dire que 2021, à ce rythme-là, ça risque d'être long.
Et même. L'effet signé, on le retrouve ce soir dans RTL avec Thomas Sautre.
À ce soir.
À tout à l'heure. Notre météo, Louis.
Oui, avec de la neige encore ce matin dans le nord-est, un petit peu également au nord de la Seine, mais globalement, on devrait aller vers une amélioration. Cet après-midi, encore quelques pluies, quelques flocons près des Pyrénées ou encore entre la région Rhône-Alpes et le nord-est. Mais dans toutes les autres régions, retour d'un temps sec et plutôt ensoleillé, avec un peu de vent près de la Méditerranée, beaucoup de vent même en Corse. Et puis les températures, après des gelées encore ce matin, 1 à 3 degrés dans le nord-est, 5 à 6 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 8 à 13 degrés dans le sud.
RTL 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, victime ou meurtrière ?
La mobilisation pour tenter de sauver une femme de la prison. Elle a tué son mari violent. Les détails dès le début de ce journal. La course de fond contre les variants du virus. L'Allemagne va tenter un traitement expérimental. Et puis, la communication à la place du bâton. Nous irons à la rencontre de ces futurs policiers chargés d'empêcher les débordements dans les manifestations.
RTL Matin.
Liberté pour Valérie Bacco. C'est le titre d'une pétition en ligne qui a déjà recueilli près de 80 000 signatures. Cette femme de 40 ans risque la perpétuité pour avoir tué son mari violent en 2016. Elle sera jugée en juin prochain. L'affaire fait évidemment penser à Jacqueline Sauvage. Elle a d'ailleurs les mêmes avocates. Mais sur l'échelle de l'horreur, on est sans doute encore un cran au-dessus, Anne Le Hénaff.
Elle avait 12 ans lorsque son beau-père a commencé à la violer. Elle tombe enceinte, il part avec elle, l'épouse, le couple a 4 enfants. Valérie Bacot le décrit comme un homme violent qui la frappe, qui l'oblige à se prostituer à l'arrière d'une camionnette tout en lui donnant des instructions avec une oreillette. Un soir de mars 2016, il l'insulte, mécontent de sa prestation. Elle saisit alors un revolver qu'elle avait caché dans le van et le tue d'une balle dans la nuque. Puis elle enterre le corps dans la forêt, aidée par 2 de ses fils et un ami de sa fille. Après ses aveux, Valérie Bacot passe 1 an en détention provisoire. Aujourd'hui, elle est libre. Elle travaille en CDI. Son comité de soutien et son avocate, maître Nathalie Tomasini, veulent lui éviter un retour en prison.
Il est évident qu'il doit y avoir condamnation. Un homme est mort. Il est hors de question de demander un permis de tuer pour ces femmes. Maintenant, les circonstances du dossier sont telles que j'espère que les jurés comprendront qu'il serait entre guillemets injuste que cette mère de famille qui a déjà vécu l'indicible retourne en détention.
Valérie Bacot risque la prison à perpétuité.
La perpétuité, le parquet n'a pas retenu la légitime défense, récit d'Anne Le Hénaff. Valérie Bacot a 4 enfants. Des images d'une rare violence, un soutien de plusieurs ministres, l'Élysée qui prend des nouvelles, mais toujours aucune interpellation ce matin après l'agression de Youri, 15 ans, en plein Paris, dans le quartier de Beaugrenelle, par plusieurs individus au visage dissimulé. L'adolescent, victime semble-t-il d'un contentieux entre bandes rivales, est toujours hospitalisé dans un état grave.
RTL 8h03, malgré la pression des médecins, le gouvernement se donne encore du temps avant de reconfiner.
On y va tout droit, mais quand et comment, école ouverte ou pas, on y verra peut-être plus clair. Mercredi, après un énième conseil de défense sanitaire à l'Élysée, les nouveaux variants du virus représentent déjà jusqu'à 9% des cas, parfois, dans certaines régions, d'après le professeur Jean-François Delfrécy. Face à l'urgence, l'Allemagne, elle, fait le pari d'un nouveau traitement, celui-là même qui avait remis sur pied en un temps à ses records, l'ancien président américain Donald Trump. Blandine Milsan.
L'Allemagne a passé commande de 200 000 doses pour 400 millions d'euros. Elles doivent être distribuées dès cette semaine dans les hôpitaux universitaires. Même si elle revient à 2 000 euros par patient, cette thérapie, encore expérimentale, restera gratuite. Ce sont les médecins de l'hôpital qui décideront à qui l'administrer et cela se fera au cas par cas selon le profil du malade. En priorité, les personnes à risque pour éviter chez elles une évolution plus grave de la maladie. Car c'est le principal avantage de ce traitement à base d'anticorps de synthèse. Il bloque le virus et permet ainsi d'éviter au maximum les complications. Alors que l'Allemagne a dépassé les 50 000 décès dus au corona, le ministre de la Santé est au centre des critiques qui estiment la campagne de vaccination trop lente et mal organisée. Jens Spahn tente donc ainsi de faire taire la polémique, même si on risque de lui reprocher de faire cavalier seul en Europe.
Blandine Milsan, à chaque pays sa polémique autour du virus. Aux Pays-Bas, le couvre-feu en vigueur depuis ce week-end, le premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale, passe très mal. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes, dont Amsterdam, où une centaine de personnes ont été interpellées. La crise économique, quelle crise ? Les 1000 plus grandes fortunes mondiales sortent indemnes, voire renforcées de la pandémie, d'après le dernier rapport Oxfam sur les inégalités. Quant aux plus pauvres, ils mettront plus de 10 ans à s'en remettre, d'après l'ONG.
8h05. Télétravailler en s'amusant, c'est possible.
À l'approche des vacances de février, certaines stations de ski proposent de profiter de la montagne malgré la fermeture des remontées mécaniques. Serge Pueyo joue pour nous, l'agent immobilier.
Pour ceux qui n'en peuvent plus de télétravailler dans leur petit appartement au cœur de ville polluée, le directeur de l'Office du tourisme de Courchevel, Gilles Delaruelle, leur propose
des appartements, des chalets en location qui leur garantira un accès Wi-Fi, un accès 4G pour travailler. Avec des montagnes tout autour enneigées en ce moment, un air pur, de pouvoir profiter des sorties en raquette, du ski de randonnée, du ski de fond. À partir de 1540 euros, c'est un appartement pour 4 personnes disponible à partir du 8 mars pour 4 semaines.
Toujours en Savoie, dans la station des Arcs, Candice Falcoz a une annonce qui peut vous intéresser.
On propose un chalet qui se trouve aux Arcs 1600 à l'arrivée du funiculaire, qui est un chalet composé de 3 chambres, un espace de fitness et un espace de télétravail, un espace de coworking avec un wifi de qualité et stable. Et par la fenêtre, trouver l'inspiration en regardant toute la chaîne de montagne en face de la station des Arcs pour un tarif de 3750 euros par mois.
Voilà, et pour que votre patron participe au financement du séjour, il faudra lui expliquer que le bien-être au travail n'a pas de prix.
Ben voilà, on va lui expliquer.
On est d'accord pour y aller.
Voilà. Serge Pueyo, ah oui, on est tout à fait d'accord.
Le combat d'une vie pour une femme qui attaque en justice pas moins de 14 multinationales agrochimiques. On vous explique tout ça dans un instant sur RTL.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est un poison qui aurait fait des millions de victimes lors de la guerre du Vietnam et même au-delà.
Un herbicide appelé l'agent orange, en référence aux bandes de couleurs qui étaient peintes sur les fûts de stockage. Il a été utilisé, cet herbicide, par l'armée américaine, déversé sur des centaines d'hectares de forêt au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Une femme, une franco-vietnamienne de 80 ans, a réussi l'exploit de traîner en justice les multinationales agrochimiques accusées d'avoir fourni l'armée américaine. Et le procès s'ouvre tout à l'heure à Évry, près de Paris. Émilie Bojard.
La première fois que Tran Tonga a respiré de l'agent orange, c'était en 1966, près d'une base américaine dans le sud du Vietnam. Un nuage blanc et une odeur âcre.
Quand on a reçu les épandages, on ne savait pas que ça peut donner des conséquences à l'être humain.
Et les conséquences arrivent pourtant très vite. 2 ans après, Tran Tonga perd sa première fille, qui naît avec une grave malformation cardiaque. Elle-même développe une maladie génétique et des problèmes respiratoires. Tout ça à cause de l'agent orange, selon elle.
De génération en génération, on transmet ce poison. Tous mes petits-enfants, mes enfants ont aussi une maladie génétique, une malformation dans les globules rouges.
En 2014, elle porte plainte contre les industriels américains. 6 années de procédure, 19 audiences préliminaires, mais Tran Tonga ne veut rien lâcher.
J'attends que le mal soit réparé, la crime soit reconnue. Donc si aujourd'hui justice soit faite pour Tran Tonga, alors le lendemain, justice sera faite aussi pour les autres.
Une expertise médicale sera sûrement demandée au procès aujourd'hui. Elle se dit prête à s'y soumettre, ainsi que toute sa famille.
Émilie Bojard du service étranger de RTL.
8h10, le ministère de l'Intérieur lance donc aujourd'hui son Beauvau de la sécurité.
4 mois de concertation pour tenter de renouer le lien avec des forces de l'ordre en plein malaise. Les syndicats n'ont pas digéré les propos d'Emmanuel Macron sur les violences policières. L'idée est notamment de renforcer le lien entre la police et la population. C'est juste la mission des futures équipes de liaison qui devront intervenir lors des manifestations. Comment sont-elles formées, ces équipes? Alice Moreno, vous avez pu suivre pour RTL un de ces cours à l'école de police de Paris.
Oui, la plupart des 40 stagiaires ont une longue expérience du maintien de l'ordre. Parmi eux, Bruno et Belka, un binôme de policiers toulousains qui souhaitent changer de méthode.
Ce serait une vision autre que celle quand on est porteur de bouclier, d'un casque et d'un bâton de défense, que d'aller au contact des organisateurs pour essayer de voir ce qu'ils ont l'intention de faire.
De dire aux gens qu'on n'est pas contre les manifestants.
Ces futurs agents iront au cœur des cortèges en civil, signalés par un brassard bleu. Leur mission, dialoguer avec les manifestants, indiquer par exemple les interventions policières à venir, la pédagogie pour limiter les débordements. C'est la doctrine de Bertrand Chamoulot, conseiller du ministre de l'Intérieur.
Lorsque par exemple des moyens lacrymogènes étaient utilisés pour cibler encore une fois un groupe de casseurs, les manifestants pacifiques qui sont là ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup la police utilise ces moyens. Et cette incompréhension va créer des tensions.
Certains stagiaires redoutent tout de même d'être pris pour cible, isolés au milieu de la foule.
Si ça se passe mal, on s'en va. Hein. On n'est pas des héros et... courageux, mais pas inconscient.
Ces agents seront équipés de gilets pare-balles, ont droit aux lacrymogènes et aux LBD. Et comme n'importe quel policier en civil, ils seront autorisés à porter leurs armes de service.
Voilà, ils n'iront pas jusqu'à jouer les héros, on a bien compris. Reportage d'Alice Moreno. En sport, Lyon vainqueur implacable du derby contre Saint-Etienne, 5-0. L'OL solidement accroché au podium derrière Paris et Lille. Lille qui est allé battre Rennes 1-0. À retenir aussi les victoires de Bordeaux, de Reims et de Metz. Match nul un partout entre Dijon et Strasbourg. Et puis en handball, la qualification des Bleus pour les quarts de finale du Mondial en Égypte. Les Français ont battu le Portugal 32-23.
C'était donc le journal de Jérôme Florin sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Les fake news, les fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, est-il vrai que certains maires ont dû acheter le matériel pour leur centre de vaccination?
Et oui, alors depuis le début de la campagne de vaccination, il y a une petite tension entre le gouvernement et les élus locaux, notamment les maires. Alors ces derniers veulent être davantage associés. Et cette volonté va assez loin puisque certains édiles prétendent, notamment en Ile-de-France, qu'ils ont dû acheter des aiguilles et des compresses pour combler le manque dans les centres de vaccination. Olivier Véran s'en est sorti fort courroucé. Et voilà ce qu'il répondait sur ce sujet la semaine dernière sur France Inter.
J'écoutais la présidente de la région Île-de-France hier matin à la radio qui nous racontait une fable totalement et qui nous expliquait que les maires n'avaient pas été obligés d'acheter eux-mêmes les seringues et les aiguilles. Mais c'est même plus que faux. Ce sont les services de l'État qui fournissent tout le matériel de vaccination.
Voilà, une intervention qui a fait réagir, notamment la maire de Taverny dans le Val-d'Oise, Florence Portelli, qui répond au ministre de la Santé en brandissant des factures, aiguilles, tampons alcoolisés, compresses non tissées, 800 euros hein, qu'elle a dû acheter pour son centre de vaccination et donc accuse Olivier Véran de mensonge.
Bon, est-ce une pratique courante dans les municipalités d'acheter ce type de matériel ?
Alors, la semaine dernière, l'association des maires d'Île-de-France a adressé une lettre à Olivier Véran, disponible sur le site hein, d'ailleurs, qui dénonce un flou et note que, je cite, « certaines communes ont dû fournir du petit matériel médical, aiguilles, compresses, pour les premières ouvertures de centres. En France, la gestion des stocks de produits de santé dits stratégiques est l'affaire de Santé publique France. Son rôle prévu par le Code de santé publique est d'acquérir, stocker et organiser, le cas échéant, la distribution des produits nécessaires prévus par les plans nationaux de réponse aux menaces sanitaires. Voilà, ça, c'est leur mission. Les centres de vaccination dépendent, eux, d'un hôpital de secteur que la Direction générale de la Santé nomme des établissements pivots. Ce sont eux qui sont censés récupérer le matériel et le répartir par la suite. Un fonctionnement censé permettre un approvisionnement fluide. Et dans le cadre des maires faiseurs de chèques, comme Florence Portelli, il est possible qu'il y ait eu des couacs dans la logistique, explique la Direction générale de la Santé, mais d'une manière exceptionnelle, peu répandue.
Alors, qu'a répondu Florence Portelli à tout cela ?
Alors, elle prend note, ça c'est bien, voilà, c'est comprend bien la difficulté, mais dénonce une administration tentaculaire. Sollicitée par la chaîne LCI, l'Agence régionale de santé met en avant un autre problème, celui de l'ouverture prématurée de certains centres de vaccination, notamment la semaine du 11 janvier. Je cite, il a pu arriver que ponctuellement, des élus ou des établissements supports soient obligés d'acheter des seringues, explique l'agence, pour qui ce problème est désormais réglé. En fait, quand chacun veut tirer la couverture vaccinale à soi, à un moment, elle s'effiloche.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin, à demain.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et l'on retrouve tout de suite notre brigade RTL avec vous, Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Brigade politique ce matin pour faire un point sur les prochaines élections. Car oui, on a peut-être tendance à oublier, mais les électeurs sont appelés aux urnes cette année. Jacques, les élections départementales et régionales sont-elles toujours bien maintenues pour le mois de juin ?
Oui, elles le sont. En tout cas, pour le moment, initialement, ces élections devaient avoir lieu en mars. Désormais, c'est donc prévu pour juin. Ça fait suite aux recommandations de l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debray, qui avait été missionné par le Premier ministre pour étudier un éventuel report. Report qui fait l'objet d'un projet de loi. Il sera examiné demain au Sénat et devrait être voté, sauf surprise, sans encombre.
Est-ce que l'on connaît déjà les dates précises des jours de vote ?
Non, rien de définitif pour l'instant, mais deux possibilités circulent actuellement, les dimanches 13 et 20 juin, ou alors les 20 et 27 juin pour le premier et le deuxième tour. Mais il y a encore un peu de temps, la date de convocation des électeurs sera fixée par décret au plus tard 6 semaines avant le scrutin.
Il n'y a aucun risque que ces élections soient de nouveau repoussées ?
À ce stade, personne ne peut l'écarter. D'ailleurs, le projet de loi du gouvernement prévoit que le comité scientifique remette au Parlement d'ici au 1er avril un rapport sur, je cite, les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin. Une sorte de clause de revoyure qui ne dit pas son nom pour prendre en compte le risque de persistance de la pandémie. Ce qui ne manquera pas d'agiter les débats au sein des oppositions, d'autant plus que l'on sait que le chef de l'État est plutôt favorable au report de ces élections départementales et régionales en 2022 après la présidentielle.
Mais ne peut-on pas envisager, Jacques, de voter par correspondance ou en ligne ?
Là aussi, ça fait débat. Quand il était place Beauvau, l'ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, y était favorable. Son successeur, Gérald Darmanin, l'est beaucoup moins. Ceux qui sont pour y voient une démocratie moderne qui sait s'adapter aux circonstances. En revanche, ceux qui sont contre le vote par correspondance mettent en avant un scrutin qui pourrait être manipulé. Des pressions, par exemple, sur les personnes âgées ou vulnérables à leur domicile. Mais avant même les moyens pour voter, ce qui interroge, ce sont les conditions pour faire campagne en temps de Covid. Et ça, c'est une préoccupation commune à tous les partis politiques.
Merci beaucoup Jacques Serret. Dans un instant, Michel Simès s'intéresse aux nouvelles fraudes à la sécurité sociale. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves.
RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel, heureux de vous retrouver.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous revenez sur les arnaques qui visent les assurés sociaux.
Oui, figurez-vous qu'un ami a reçu récemment un SMS qui, à première vue, sentait bon. Alors, je vous en donne la lecture. Mmh. Après vérification de votre dossier d'assurance maladie, nous avons déterminé que vous recevrez un remboursement de 1024,83 €. Vous voyez, c'est précis.
Oui.
Veuillez remplir votre formulaire de remboursement et confirmez-le via le lien ci-dessous. Oui. Mon ami était à deux doigts, ou plutôt un doigt, parce qu'on n'a pas besoin de plus, de cliquer sur le lien en question. quand il s'est retenu, et il a bien fait, il s'est rappelé in extremis que l'assurance maladie ne demande jamais, vous entendez, jamais de validation de remboursement.
C'est donc une arnaque par SMS, mais il en existe aussi par courriel et même par appel téléphonique.
Hein. Oui, et comme mon ami avait reçu cette proposition par SMS, il a rappelé le numéro de l'expéditeur, il est tombé sur une messagerie disant qu'il pouvait laisser un message, ce qu'il a fait, et il attend toujours qu'on le rappelle.
Ah, hein.
Bref, tout ça pour dire qu'une nouvelle fois, l'assurance maladie constate une recrudescence des arnaques par SMS. Avec les techniques modernes, il est simplissime d'usurper le nom et le logo de l'assurance maladie pour ensuite vous proposer tout un tas de services fantaisistes. Un coup, c'est pour une mise à jour de la carte vitale. Un coup, c'est pour soi-disant vous rembourser une somme rondelette. Un coup, c'est pour vous demander des informations médicales. Et à tous les coups, vous êtes la cible d'arnaqueurs qui en veulent à vos données personnelles et, in fine, à votre compte en banque. Ah oui. Ou s'intéressent à votre numéro de sécurité sociale dans le but de l'utiliser.
On va peut-être rappeler quelques conseils de prudence.
Alors, d'abord, sachez que la mise à jour de la carte vitale est gratuite. Vous pouvez la faire dans n'importe quelle pharmacie ou aux bornes qui sont à votre disposition dans les points d'accueil de l'assurance maladie. Ensuite, notez que l'assurance maladie ne demande jamais que vous lui communiquiez des infos médicales, vos coordonnées bancaires ou votre numéro de sécu. Ce numéro, elle est mieux placée que quiconque pour le connaître. Enfin, il faut savoir débusquer un mail frauduleux.
Quels sont les points qui doivent attirer notre attention ?
Vous passez la pointe de la souris de votre ordi sur l'adresse email de l'expéditeur. Mmh. Si c'est une adresse personnelle, il y a anguille sous roche. Si, dans le mail, figure une référence de dossier, là encore méfiance parce que l'assurance maladie n'en utilise jamais dans l'objet de ces mails. Si votre interlocuteur se présente comme un service client, considérez qu'il vient de se trahir et vous mettez son mail à la poubelle. Et dernière chose, la couleur du texte.
Ah bon, que voulez-vous dire ?
Eh bien, parfois, pour mieux vous affoler ou mieux vous appâter, l'arnaqueur écrit une partie de son texte en rouge. Or, l'assurance maladie n'écrit jamais en rouge dans les courriels qu'elle envoie à ses assurés. Donc, si vous voyez du rouge, bah, vous faites comme au Carrefour. Quand vous êtes au volant, vous dites stop. En fait, quoi que vous ayez à faire concernant votre dossier d'assuré social, faites-le sur le site Amélie. C'est la seule bonne adresse, le seul bon interlocuteur.
Et n'oubliez pas, la sécurité sociale ne vous écrit jamais en rouge.
Jamais.
À demain, Michel. RTL et le groupe M6 s'engagent dans la semaine verte, la Green Week. Toute la semaine, nous mettrons en avant des initiatives écologiques. Et dans un instant, c'est le directeur général de L'Oréal France qui sera notre invité. Comment le géant français des cosmétiques opère sa mutation pour devenir encore davantage éco-responsable ? Nous allons en parler avec lui. À tout de suite.
Yves Calvi,
RTL Matin.
Bonjour Hervé Navellou.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de L'Oréal France. Vous présidez également l'Union des marques. J'y reviendrai. Bienvenue sur RTL. Toute la semaine, RTL et le groupe M6 s'engagent en faveur de l'environnement et de la préservation de la planète. Et ce matin, nous avions la curiosité de comprendre comment un géant français des cosmétiques s'engage lui aussi. Hervé Navellou, je redonne quelques chiffres concernant L'Oréal. Vous avez 36 marques internationales. Vous êtes présent sur tous les continents. Un chiffre d'affaires de plus de 29 milliards d'euros et près de 90 000 collaborateurs. L'Oréal s'engage pour respecter la planète. Comment, Hervé Navellou ?
Alors d'abord, la RSE chez nous, c'est un sujet très important depuis...
RSE ?
Oui, responsabilité sociale environnementale.
Merci.
C'est un sujet de préoccupation très ancien chez L'Oréal, hein, depuis plus de 20 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on agit ? Bon, ben d'abord parce que tout le monde est bien conscient qu'il y a une urgence, hein, il y a le réchauffement climatique. Nous-mêmes avons déjà mené de grosses actions depuis, donc comme je le disais, 20 ans, avec beaucoup d'efforts pour réduire nos émissions CO2, hein, de 2005 à 2019, moins 80%, alors que nos volumes augmentaient. Mais on pense qu'aujourd'hui, il faut accélérer. Et on pense surtout que les entreprises aussi font partie de la solution.
C'est un changement structurel ou organisationnel ?
C'est un changement assez structurel, en tout cas une accélération qui nous amène à mettre la transformation durable au cœur du modèle L'Oréal, avec un programme L'Oréal pour le futur très ambitieux qu'on vient d'annoncer, avec des engagements d'ici 2030. Et c'est un programme qui surtout a comme particularité de viser à réduire notre impact environnemental, non seulement sur nos activités en propre, mais aussi sur d'entraîner celle de nos fournisseurs, celle de nos clients et même l'usage du consommateur, hein, d'intégrer ces éléments-là aussi dans nos objectifs.
Alors ça, ce sont les grandes idées.
C'est les grandes idées. Puis il y a une deuxième grande importante qui est aussi d'adresser, je veux dire, notre impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Et ça, c'est aussi très important.
Concrètement, ça va se traduire par quoi ? Je ne sais pas, par exemple, peut-être dans les consommations d'eau. Enfin, je vous laisse choisir, mais voilà, allons sur des points précis.
Pour être très précis et concret, d'abord, le premier objectif, c'est de réduire donc nos émissions de CO2 par produit fini, de les réduire de moitié d'ici 2030.
50%.
Ouais, absolument.
C'est beaucoup, non ?
Et ça, c'est sur toute la chaîne, c'est énorme. Hein, donc, en intégrant encore une fois les émissions de CO2 aussi de nos activités indirectes, c'est de rendre tous nos sites carbone neutres d'ici 2025. en France et dans le monde. Et puis, c'est d'accélérer dans l'éco-conception de nos produits. Par exemple, on vise à avoir 100% de nos emballages plastiques recyclables, rechargeables, réutilisables d'ici 2025. Donc ce sont des gros engagements. Je ne parle pas évidemment de tout ce qu'on fait sur la consommation d'eau, sur la réduction des déchets, qui sont aussi des critères qu'on prend en compte.
Je prends le dernier critère, par exemple les emballages. Vous avez déjà les outils et la matière, et il faut simplement du temps pour le mettre en place, ou c'est aussi en ce moment l'objet de recherche en tant que tel?
Alors effectivement, vous avez raison.
Parce que vous êtes un groupe de recherche, oui, par définition.
On investit dans la recherche de nouvelles technologies, notamment de recyclage, avec une entreprise comme Carbios. Mais on est déjà aussi en mouvement là-dessus, puisqu'en fait, dans les innovations produits qui sortent en ce moment, vous le verrez, il y a pas mal de produits éco-conçus. Par exemple, ce shampoing Dob qui vient d'arriver sur le marché, qui est un shampoing solide, hein, formule sans eau et zéro plastique. Ou même ce soin dans un tube à base de carton qui nous permet de réduire le plastique de plus de 50%. Donc ça bouge. On fait même aujourd'hui des parfums rechargeables. Hein. Armani a lancé My Way et vous pouvez recharger votre parfum en boutique. Et puis on est même en train de travailler sur des nouvelles formules de shampoing qui seront beaucoup plus facilement rinçables.
Alors, vous faites des efforts et ma question n'est pas agréable. Ces efforts se traduisent aussi par définition par des emplois qui disparaissent, c'est-à-dire ceux qui vous fournissaient auparavant les produits que vous utilisiez, par exemple pour faire des paquets, du packaging. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je sais qu'on ne peut pas vous reprocher tout et le contraire, mais dire la vérité, c'est aussi expliquer que la chaîne n'est pas neutre.
Oui, mais non. Chez L'Oréal, on a une tradition qui est de travailler avec nos fournisseurs sur le long terme. Je peux vous dire qu'eux-mêmes sont préoccupés par les mêmes enjeux de transformation
durable.
Donc
c'est du boulot qui se fait ensemble.
Et par exemple, ce tube-là développé avec Albéa. Ouais. Albéa, on travaille avec eux depuis très longtemps. Eux-mêmes sont des partenaires sur ces nouveaux développements.
Je crois qu'en Chine, vous avez déjà atteint certains de vos objectifs, avec notamment des usines ultra-modernes. Expliquez-nous.
Alors, il y a des usines ultra-modernes en Chine, mais les usines françaises, on en a 11, sont aussi très modernes. Et on a déjà, en France, je tiens à le dire, la moitié de nos usines sont déjà carbone neutre. Hein, celle de Rambouillet, par exemple, dans 78, et elles n'ont rien à envier en termes de modernité aux usines chinoises.
Bon, très bien. Alors voilà, je remets ma question de ma poche. Comment la transformation vers plus d'écologie est née au sein du groupe et ça vient d'où? Vous me disiez dans votre première réponse, on s'en préoccupe depuis toujours.
Oui, on a depuis longtemps déjà au cœur de l'organisation déjà en charge de ce sujet. Et maintenant, comme je vous le disais, ça devient vraiment un enjeu partagé par tous. Je crois que ce qui fait la réussite dans ce domaine-là, c'est la mobilisation des équipes en interne dans tous les métiers. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez L'Oréal. On a vraiment décidé de mettre cet enjeu de transformation durable comme étant un objectif absolument majeur au cœur du modèle, et toutes les équipes y contribuent.
En 100 ans d'existence, les recettes ont beaucoup évolué. Je veux dire, les recettes des produits elles-mêmes, je veux dire, ça bouge tout le temps.
Oui, bien sûr, les formules évoluent grâce à la science aussi. Vous savez, chez L'Oréal, on a plus de 4000 chercheurs qui travaillent justement sur l'amélioration de nos formules, sur des ingrédients de plus en plus pointus, évidemment toujours sûrs, et sur des ingrédients aussi dont l'impact environnemental sera absolument minimisé.
Alors, question essentielle, on ne peut pas ne pas vous suivre, surtout dans la semaine verte, sur tout ce que vous venez de nous expliquer. Qui va payer ces évolutions? Et est-ce que ça ne va pas tout simplement retomber sur le portefeuille de vos clients et
C'est absolument pas l'idée. Hein. Nous, on est là, on investit dans cette cause et dans ce sujet parce qu'on pense que c'est fondamental. Mais l'idée n'est absolument pas de répercuter ces investissements dans le prix consommateur. Le prix consommateur reste absolument constant et les produits dont je vous parle sont exactement au même niveau de prix que les marques précédentes.
Vous êtes formel.
Oui,
ça ne changera pas les choses,
non,
sur ce plan.
Non.
Un shampoing dit green, comprenez-vous plus respectueux de l'environnement. Est-ce que ça lave aussi bien qu'un autre produit?
Écoutez, c'est une bonne
question. Vous êtes connu par la qualité de vos produits. Donc, est-ce que les produits verts, on va les appeler comme ça, que vous nous préparez ou que vous mettez en place, auront les mêmes qualités?
C'est une très bonne question. Nous, on a justement toujours mis la qualité au cœur de notre modèle. Et tout le travail qu'on fait aujourd'hui est de justement parvenir à des produits plus vertueux sur le plan environnemental, mais toujours de qualité. Et donc, ça prend parfois un petit peu de temps, un petit peu d'effort en termes de recherche, mais c'est exactement ce qu'on vise aujourd'hui.
Merci beaucoup Hervé Navellou. Je rappelle que vous êtes directeur général de L'Oréal France. Merci aussi d'avoir inauguré notre Green Week, notre semaine verte sur RTL. Et on aura beaucoup de curiosité à suivre les transformations écologiques du géant des cosmétiques que vous êtes. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Et à bientôt sur RTL. Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Baudin.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Monique Younes.
Laissez-vous tenter.
Je vous parle ce matin de Patrick Devers, l'un des plus intrigants acteurs français. Il a formé avec Gérard Depardieu un duo culte dans Les Valseuses de Bertrand Blier. Sa fulgurante carrière et sa fin tragique sont racontées dans la bande dessinée Patrick Devers, à part ça, La vie est belle, où l'on croise Depardieu, Coluche, Miu Miu, Julien Clerc et quantité d'autres stars. Patrick Devers n'a jamais eu de César, mais son biopic décroche la bande dessinée RTL de janvier. Venez la découvrir à 9h dans Laissez-vous tenter.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
8h33, nous allons nous consacrer un petit peu à notre météo à 7 jours. Et vous m'avez dit il y a quelques instants, Louis Baudin, ça sera douci dès le milieu de la semaine.
Oui, c'est ça. Alors, on l'a dit, encore aujourd'hui du froid, avec même de la neige jusqu'en plaine dans le nord-est. Dans les autres régions, quand même, un ciel un petit peu plus dégagé, mais toujours ces températures hivernales, même si près de la Méditerranée, on repasse les 10 degrés. Demain, attention, un réveil particulièrement froid. Pourquoi ? Parce que la nuit sera souvent étoilée, donc forte gelée demain dans beaucoup de régions, avec un temps plus sec. C'est vrai que le soleil s'imposera dans la moitié est. Il restera peut-être quelques flocons dans l'extrême nord-est. Et puis dans l'ouest, déjà un ciel un peu plus chargé, avec peut-être quelques pluies en fin de journée. Mais je dirais plutôt une journée de répit, même si le froid est encore là demain. Et puis mercredi, ça change radicalement. On va retrouver une circulation océanique. Et avec celle-ci, bien forcément des températures qui vont remonter. Alors pas le matin, mercredi matin, ça sent encore froid. Mais l'après-midi, on atteindra de nouveau les 9-10 degrés dans la moitié nord au moins. Donc on repassera au-dessus des moyennes de saison, 10 à 15 degrés dans le sud. Et tout ça, évidemment, avec plus de nuages, plus d'humidité. Donc retour de la pluie, des pluies qui vont circuler d'ouest en est. Il neigera en montagne et seulement en montagne. Et puis ensuite, c'est un balai de perturbations jusqu'à samedi. On va ajuster la chronologie, mais des nuages, de la pluie au moins une fois dans la journée, toujours de la neige en montagne, du soleil mais du vent près de la Méditerranée, ça jusqu'à samedi. Et puis entre samedi et dimanche, de nouveau un coup de froid.
Ah oui.
Donc ça vient.
Et éventuellement quelques flocons.
Et donc du coup, éventuellement quelques flocons jusqu'en plaine, notamment dans la nuit de samedi à dimanche ou encore dimanche dans la moitié nord, trop loin pour être précis. Mais donc nouveau refroidissement qui pourrait peut-être se confirmer en début de semaine prochaine.
Donc la douceur à partir de mercredi, en tout cas plus de douceur, et un coup de froid à venir a priori en fin de semaine.
Voilà.
Je vous garde un petit instant avec nous parce qu'on sait à quel point vous êtes passionné par la voile. Oui. Le vent des globes, alors l'arrivée pourrait être dans 2 ou 3 jours,
c'est
dit-on, et c'est encore au moment où on parle très serré. D'abord, quelles sont les conditions météo auxquelles ils vont être confrontés, ce qu'on sait?
Oui, c'est un vent de plus en plus fort, mais c'est un vent portant, c'est un vent qui les emmène vers l'arrivée, vers les sables d'Olonne, hein, c'est un vent qui souffle du sud-ouest vers le nord-est, mais comme il souffle exactement dans la direction, eh bien, un voilier, il ne peut pas suivre ça. Ça peut paraître paradoxal. Donc, il faut qu'il, ce qu'on appelle tire des bords, il fait des empannages. Donc, il faut qu'il choisisse le nord, le sud. Donc, ça veut dire que jusqu'au bout, il va y avoir du suspense parce qu'on voit bien qu'ils sont tous en train de tricoter, comme on dit, autour de cette trajectoire idéale pour y arriver. Et comme ils sont encore à moins de 100 km les uns des autres pour les 4 premiers, rien n'est encore fait.
Tout est possible.
D'ici l'arrivée, qui devrait se faire dans le journée de mercredi.
Vous avez un favori?
Non, honnêtement, là, c'est très compliqué parce que, au gré des classements, je change, donc c'est compliqué.
Merci beaucoup, Louis Baudin, RTL. Il est 8h36.
RTL, vous êtes comme ça.
Et toute cette semaine, RTL passe au vert. Votre radio organise la semaine verte et vous propose des programmes inédits en lien avec l'écologie et l'environnement. Gros plan sur vos initiatives en matière de développement durable. Bonjour Raphaël Vantard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce matin, on vous suit à Valence, dans la Drôme. Des habitants d'une résidence en pleine ville ont bâti il y a quelques semaines un poulailler pour recycler une bonne partie de leurs déchets.
Avec leur petit caquettement, leur démarche prudente, ces poules trouvent presque naturellement leur place aujourd'hui au pied de cet immeuble. Elles regardent sans broncher les voitures se garer dans les garages juste à côté. Leur poulailler, c'est Bastien Debu, un habitant qui l'a construit.
Donc là, maintenant, je viens d'ouvrir, on va pouvoir rentrer. Eh bien, bienvenue. Donc actuellement, on a 9 poules, 6 poules rousses et 3 poules noires. Alors là, on est vraiment au cœur de la résidence. Donc on est entouré par 50 appartements. Alors donc, on a une surface de 50 mètres carrés. Et là, on va avoir donc 4 pondoirs. Donc voilà, elles pondent à l'intérieur. Le matin, je passe pour récupérer les œufs. Ensuite, les personnes de la résidence, si elles le souhaitent, peuvent venir distribuer le reste alimentaire aux poules via une petite trappe à côté de la porte.
Alors, c'est la trappe qui est là, du coup.
Voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc celle-là, elle est accessible toute l'année, toute la journée. Ensuite, les personnes de la résidence, si le souhaitent, peuvent adhérer à l'association et donc peuvent venir récupérer les œufs. On les vend 30 centimes pour amortir la structure.
Bastien a monté l'association Poule Éco qui gère le poulailler. Il s'attendait à plus de protestations des habitants de son immeuble et des riverains alentours.
Au début, on avait un petit peu peur parce que mettre des poules en centre-ville, on connaissait pas très bien l'impact que ça allait avoir. Et au final, ça a vraiment été une grande surprise.
On aurait pu craindre des petites nuisances, que les gens se plaignent du bruit des poules, les choses comme ça. Vous n'avez pas du tout ça, au contraire ?
Non, parce qu'en fait, on n'a pas de coq. On a vraiment que des poules. Les poules, elles vont caqueter un petit peu le matin pendant la ponte. Ça dure une minute ou deux. Mais non, que ce soit au niveau du bruit ou au niveau des odeurs, que ce soit même dans une résidence, que ce soit dans un village, elles font pas plus de bruit ici qu'ailleurs.
Chaque jour, à tour de rôle, les habitants reçoivent donc leur boîte de frais de leur poulailler installé au pied de leur cage d'escalier.
Alors, on a envie de savoir comment le poulailler a-t-il été accueilli. Raphaël, les habitants de cet immeuble se sont-ils accoutumés à leur nouvelle colocataire ?
Mieux que ça, ils en sont fiers. À chacun de leurs invités, dès leur arrivée, Sofiane et sa femme Sylvie proposent la visite guidée du poulailler de l'immeuble.
Quand je fais à manger, je mets directement dans des tupperwares ou dans des sacs et je mets de côté au lieu de mettre à la poubelle. J'ai qu'à pour les poules. Tous les déchets, quoi, qu'elles peuvent manger. Elles sont végétariennes, faut pas leur donner de viande.
C'est vrai que tout le monde est surpris quand ils viennent, par exemple, ici en bas de la maison et qu'ils voient des poules. Tout le monde a la même réaction. Ils sont tous surpris. Et nous, en fait, ça nous amuse. Maintenant, on a pris l'habitude de les nourrir. On a l'habitude d'avoir des œufs de qualité. Et franchement, ça nous fait un petit truc en plus. Et on les aime aujourd'hui, les poules qu'on a. Aujourd'hui, on s'est attaché et on les nourrit.
Chaque habitant a vu aussi les conséquences sur ses sacs poubelles. Monica savoure tous ses allers-retours en moins au local des ordures.
Je ramène maintenant tous mes restes de repas, mes épluchures ici. Et mine de rien, c'est à peu près 30% de ma poubelle qui diminue. J'ai des enfants en bas âge de 6 ans et de 3 ans et c'est un vrai bonheur. C'est vraiment pour elles la sortie quotidienne. Maintenant, elles ont compris plein de choses qu'elles ne savaient pas avant. D'où viennent les œufs, comment ça marche une poule. Enfin voilà, elles comprennent aussi plein de choses qu'on ne pense pas forcément à leur expliquer parce qu'ils sont petits, parce qu'on se dit que c'est pas le moment. Et finalement, ils apprennent simplement la nature.
Fort de son expérience, Bastien, à l'origine du poulailler, a été contacté par d'autres résidences de la ville de Valence et même des entreprises qui, dans la région, vont mettre en place dans les semaines qui viennent leur poulailler en pleine ville aussi.
Pouleco, c'est le nom de cette expérience. Merci beaucoup Raphaël Vantard. Ce poulailler dans la résidence à Valence, un reportage qui doit faire sourire aussi une bonne partie de nos auditeurs qui vivent à la campagne. Vous êtes comme ça, semez au vert toute la semaine. Demain, nous irons à la Courneuve à la découverte d'un garage solidaire. Et rendez-vous évidemment sur le site rtl.fr pour retrouver l'ensemble des reportages de la rédaction.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40, ce matin Isabelle Choquet. On découvre avec vous que la dépression, ce n'est pas seulement dans la tête, c'est aussi dans le ventre que ça se passe.
Oui, on savait déjà que beaucoup de nos bobos avaient à voir avec nos boyaux. Il y a eu des livres là-dessus, et si ça venait du ventre ou le charme discret de l'intestin. Mais là, ça va quand même très loin puisqu'on parle d'une maladie mentale. Et pourtant, les dernières expériences menées sur des souris sont impressionnantes. Moi, j'ai lu ça ce matin dans Les Échos.
Oui.
D'abord, on découvre que la dépression peut être contagieuse. Et pas seulement parce qu'un dépressif plombe l'ambiance et le moral de ceux qui l'entourent. C'est vrai aussi au sens propre. Jusqu'ici, pour rendre des souris dépressives, les scientifiques les soumettaient à un stress chronique qui les rendait hyper anxieuses. Mais récemment, des chercheurs ont réussi à créer un état dépressif chez des souris en pleine forme, juste en leur transférant le microbiote intestinal de souris dépressives. Quelques jours après, elles avaient tous les symptômes, les mêmes que chez les humains, diminution de la motivation, perte du plaisir, apathie, etc.
Incroyable.
Étonnant, hein, mais oui. Pas tant que ça en fait, parce que notre ventre a des super pouvoirs, Yves. Le microbiote intestinal, c'est 100 000 milliards de bactéries réparties en 250 familles, sans compter tout plein de virus qui les régulent. 2 kilos de bactéries en tout, oui, 2 kilos. C'est simple, c'est de loin le plus grand de tous les écosystèmes bactériens de notre corps, bien plus vaste que la bouche, la peau ou que sais-je. Or, ces bactéries intestinales, elles produisent au moins 85% de la sérotonine présente dans notre organisme. Dans le ventre, la sérotonine, elle sert à réguler la descente des aliments dans l'intestin. Mais dans le cerveau, c'est le neurotransmetteur qui accompagne les humeurs positives. Là, on commence à voir le rapport, hein, et c'est une sacrée avancée dans le traitement de la dépression. Car généralement, pour soigner les dépressifs, on leur donne des antidépresseurs type Prozac. Ces antidépresseurs, ils diminuent la déperdition de sérotonine qui se produit naturellement quand elle passe d'un neurone à l'autre. Ils s'en perdent toujours un petit peu. D'une certaine manière, explique le neurobiologiste Pierre-Marie Liedo, ça revient à mettre une bombe à l'évier pour éviter qu'il se vide. Mais encore faut-il que les bactéries du microbiote intestinal fabriquent assez de sérotonine. Résumé du scientifique, ça sert à rien de mettre une bombe à l'évier si c'est le robinet qui est cassé et qui ne coule pas. Or, justement, nos souris dépressives, on constate que le robinet est cassé, si je puis dire. Elles ont du mal à produire la sérotonine à cause d'un déséquilibre de leur microbiote intestinal. On appelle ça une dysbiose. Sur ces souris, le Prozac ne sert quasiment à rien. Mais il suffit de leur donner des compléments alimentaires, des postbiotiques, et le Prozac redevient efficace.
Incroyable.
Une autre étude montre qu'on peut agir avec des compléments alimentaires sur le fonctionnement de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est en quelque sorte le poste d'aiguillage du cerveau. C'est celui qui trie nos souvenirs, mais aussi nos émotions. Quand il dysfonctionne, l'humeur s'en ressent. Quelques prébiotiques et tout va mieux. Même plus besoin de Prozac parce que là, il n'est pas question de sérotonine. Alors bien sûr, pour l'instant, on est au stade rongeur, mais on peut parfaitement imaginer que les résultats soient les mêmes sur l'homme. Et ça, c'est un formidable espoir quand on sait qu'environ 30% des dépressifs ne réagissent pas aux antidépresseurs classiques. Alors à l'avenir, il faudra sans doute s'intéresser aussi à ce qu'ils ont dans le ventre, tester leur microbiote pour savoir s'il n'y a pas un bug et leur prescrire, si besoin, des compléments qui aideront le cerveau à retrouver son fonctionnement normal. On appellera ça des psychobiotiques. Une petite révolution dans nos bidons et dans notre tête. Article à lire en détail dans Les Échos ce matin.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, c'était passionnant. Alors lui-même est un très très bon antidépresseur. On va retrouver Laurent Gérard dans un instant avec toute son équipe. Merci d'écouter RTL, il est 8h44.
Calvi sur RTL.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Et bonjour tout le monde. Olivier Véran a assuré sur TF1 que tous les Français pourront être vaccinés fin août. Pourtant, quelques heures plus tôt, devant le Sénat, il estimait qu'il ne serait que 15 millions de Français à pouvoir être vaccinés d'ici l'été.
Vous chipotez, Mademoiselle Jade, vous chipotez.
Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre.
On n'est pas à 50 millions près.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose quand même.
La situation est sous contrôle. Je répète,
oui.
La situation est sous contrôle.
Vous êtes sûr, Jean Castex ?
Ici Radio Castex. Le Premier ministre parle aux Français. Les carottes sont cuites.
Oh, non.
Je répète, les carottes sont cuites.
Mais qu'est-ce que vous racontez ?
Tout va très bien, Madame la Marquise. Je répète, tout va très bien, Madame la Marquise.
Monsieur le Premier ministre, vous perdez la boule ?
Morissette a eu sa dose. Je répète, Morissette a eu sa dose.
Bon ben, on va vous laisser. Olivier Véran, toujours, est de plus en plus critiqué pour sa gestion des vaccins. Il est avec nous pour s'expliquer. Bonjour Monsieur Véran.
Bonjour Madame. En effet, vous passez vos journées à me critiquer, mais ne parlez jamais des bonnes nouvelles. C'est agaçant.
Des bonnes nouvelles de quel ordre ?
Eh bien déjà d'ordre musical. Grâce à la pénurie de vaccins, les gens qui appellent les centres de vaccination tombent sur des musiques d'attente, des répondeurs. Mmh. Résultat, les quatre saisons de Vivaldi viennent de détrôner le dernier album d'Aya Nakamura au hit parade de la musique la plus écoutée en France. Vous pourriez me remercier.
On préférerait des bonnes nouvelles sur la vaccination des plus de 75 ans. Et là, vous n'êtes pas au rendez-vous.
Mais si, la preuve, si vous vous inscrivez pour vous faire vacciner, vous en avez pour plus de 75 ans d'attente.
Ah, ben
c'est
oui.
Conforme à ce que j'avais annoncé. Vous, les médias, vous ne savez que critiquer.
C'est pas vrai, quand vous faites des choses bien, on le dit aussi. Par exemple, tous les médias ont salué votre décision de publier chaque jour le nombre de doses de vaccins disponibles sur le site santé.fr.
Ah, c'est vrai, ça vous a plu ?
Ah ben oui.
Dans ce cas, je vais demander à Éric Dupond-Moretti de publier chaque jour les nouvelles enquêtes ouvertes contre Nicolas Sarkozy et Patrick Balkany sur prisondelasanté.fr. Quand on parle des casseroles, des républicains, on oublie les nôtres.
Une photo de François Bayrou sans masque à l'aéroport d'Orly a créé la polémique. Le maire de Pau et haut commissaire au plan avait déjà été pris en flagrant délit de non-port de masque en septembre dernier lors d'une conférence de presse.
Hop, 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 hop.
Bonjour François Bayrou, vous plaidez coupable ?
Je le reconnais, j'ai péché. C'est ma faute, ma très grande faute, et je bats ma culpe.
Oui.
Mademoiselle Jade.
Oui.
Donnez-moi des orties fraîches. Je vais me flageller en demandant pardon à Olivier Véran, à l'OMS et au docteur Maboul.
Le docteur Maboul.
Oui, c'est mon médecin généraliste. À chaque fois que je commets une erreur, comme à Orly par exemple, son nez devient tout rouge, comme ma grosse tête, et il fait un...
Oh là là.
Ce qui m'indique ma faute.
Okay.
Mais j'ai des circonstances atténuantes. À cause de mes grandes oreilles, aucun masque ne me va. Les élastiques sont trop courts.
Ah ben oui, mais ça c'est un souci. Oui.
Mais à toute chose, malheur est bon. Et là, c'est le haut commissaire au plan qui vous parle. J'ai trouvé la première mesure de mon plan quinquennal.
Ah, ben enfin.
Je vais réindustrialiser la France avec des usines qui produiront des masques pour les gens à grosses têtes et à grandes oreilles. Ces masques seront faits en toile de parachute et tendeurs élastiques de voiture. Et si la pandémie se termine, pas de souci. Chaque Français à grosses têtes et à grandes oreilles pourra faire du deltaplane avec son masque.
Lynn Renaud a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où elle indique avoir été vaccinée. Bonjour Lynn.
Allô Radio-Télévision Luxembourg.
C'est nous.
C'est Lynn Renaud. Vous direz à Max Meynier que j'arrive plus à le capter sur ma CB.
Promis, parlez-nous plutôt de cette vaccination.
Je n'ai pas lésiné, j'ai pris la totale. Covid, scorbut, choléra et typhus. Un cocktail du tonnerre.
Vous avez indiqué ne pas avoir subi d'effets secondaires. Formidable.
À vous, je peux le dire. Oui. J'ai menti.
Ah.
Mais c'était pour pas faire de jalouse, sinon j'en aurais entendu parler pendant des jours au bac à cheveux ou sous les casques chauffants de mon Jacques de sang.
C'est-à-dire, Lynn ?
Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur vaccin chez Pfizer, mais c'est du brutal. Depuis que je me suis fait piquer, j'ai une pêche d'enfer. Je viens de monter une étagère IKEA en 27 secondes et sans le mode d'emploi. J'ai même pas utilisé ma panhard pour la ramener chez moi. J'ai fait Vélizy 2 Paris 16 avec les cartons sur le dos en 12 minutes.
Il était peut-être un peu trop dosé ce vaccin, non ?
Bon, je vous laisse.
Oui.
Il y a Régine qui sonne à la porte.
D'accord.
Elle a mis son boa, j'ai enfilé ma combinaison lamée. On va aller draguer les petits gars en boîte.
Bon, en tout cas, merci pour ce message d'espoir, Lynn.
Vous direz à Emmanuel Macron que les vieux le remercient. Ils s'occupent bien de nous. Quant aux jeunes de 20 ans, moi je leur dis, soyez patients. Dans 70 ans, vous pourrez commencer à profiter de la vie. D'ici là, respectez les gestes barrières.
Jean-Marie Le Pen s'est marié à 92 ans la semaine dernière avec Jeannie, sa compagne de longue date. Bonjour Monsieur Le Pen et félicitations.
Dis donc, question, Fräulein Jeanne. Le souvenir encore frais de cette union célébrée dans mon salon en latin par l'abbé Laguéry me donne la larme à mon œil, n'est-ce pas ?
Vous étiez déjà marié civilement, hein ? Alors pourquoi avoir renouvelé vos vœux devant Dieu cette fois ?
Vous voyez, je suis un romantique. Il fallait donc que je renouvelasse mes vœux d'amour et de fidélité à ma Jeannie.
Ah bah c'est beau.
Diavol.
Ça fait rêver.
Le moment où j'ai redemandé la main bien tendue à ma Jeannie pourrait figurer au panthéon des scènes mélo-notinguilo cinématographico-romantique avec moi dans le rôle de Hugh Grant, le rose beef méchu et ma Jeannie dans celui de Julia Robert, celle qui en a de beau.
De beau quoi ?
De beau Robert, n'est-ce pas ?
Que vous êtes trop. Racontez-nous plutôt.
Ma Jeannie souhaitait que nous promenassions notre Doberman Benito dans le parc de Montretout. Voyez-vous, notre aimable compagnon à quatre pattes n'est plus tout jeune et sa prostate lui fait défaut, comme elle le fit au président socialo-bolchevico-gaucho-caviardesque-mitrant. Mais je m'égare. Benito, donc, allait d'un chêne à gland à l'autre en agitant le sien afin de soulager sa vessie défaillante. Il tirait sur la laisse, le bougre.
Et alors ?
Et alors, moi qui étais à l'autre bout, je parle de la laisse, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr.
Je chancelais et je me retrouvais à genoux devant ma Jeannie dont le sourire stéradant me fit fondre. Profitant de ma position chevaleresque, je fis ma demande tandis que Benito finissait d'arroser le peuplier.
C'est magnifique, j'ai que ça à dire. Et la cérémonie en elle-même.
Après la bénédiction en latin de l'abbé Laguéry, nous sommes passés aux choses sérieuses, pas la fête proprement dite, une surpatte du tonnerre.
Vous avez mis de
l'ambiance.
Oui, bah, vous avez mis de la musique, vous avez dansé.
Oui, bien sûr. Laurent de Saint-Afrique, notre DJ, DJ jockey, n'est-ce pas, a passé tous les disques de ma collection de musique militaire teutonne.
Ouh là là.
Puis avec ma Jeannie, sacrifiant à la tradition, n'est-ce pas, nous avons pris la route de notre voyage de noces dans un fracas métallique à réveiller les morts.
Les invités avaient accroché des boîtes de conserve à votre voiture, peut-être.
Nine, des casques à pointe.
On a l'image.
Et je vous parle pas de la nuit de noces.
C'est pas possible.
Avec les bottes en cuir de ma Jeannie et la chague.
Bon ben voilà, on est ravis d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles. Merci infiniment à toute l'équipe. On se retrouve demain matin sur l'antenne d'RTL dans quelques instants. Cyril Lignac, qui est déjà avec nous, va devoir répondre à... Enfin, il sera question de camembert. Je laisse légèrement planer le doute.
Exactement.
Voilà. Allez, à tout de suite.
RTL Matin. Yves Calvi.
Cyril Lignac, fidèle au rendez-vous. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Les auditeurs vous posent leurs questions sur rtl.fr/participer. Et Aurélie, alors c'est un roman, vous allez voir. Elle vit à Pontoise dans le Val d'Oise et elle nous écrit « J'adore le camembert rôti, je le coupe en deux, je mets des noix au milieu, je le passe au grill, puis je lui ajoute des oignons cuits, des allumettes de jambon et bien sûr des pommes de terre cuites. Miam !» Tout est d'elle. Hein. Mais Cyril, peut-on faire mariner un camembert? Vous avez 2 minutes 30.
Alors,
marinade de camembert.
L'avantage du camembert, c'est que c'est vraiment un fromage avec lequel on peut s'amuser, on peut l'utiliser. Il est crémeux, il est parfumé, on peut le manger avec la croûte, sans la croûte, on peut le cuire au four, on peut le frire pour le faire bien croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Donc, pour répondre à la question, oui, bien sûr, on peut le faire mariner. Alors, soit avec du calvados, puisque forcément, c'est de la même région. Soit avec du vin jaune. Moi, c'est ma passion. Le vin jaune, ça donne ses côtés très noix. D'ailleurs, elle le dit, elle met des noix à l'intérieur. Ou du cidre aussi, et du calvados. Donc, cidre, calvados et vin jaune, l'alcool que l'on veut.
Très bien.
On le met à mariner 24 heures au frigo. On met dans un petit... alors, on ne le fait pas baigner non plus. Hein. On prend un plat. On verse l'alcool que l'on veut, donc calvados ou vin jaune ou cidre. On le laisse 2-3 heures d'un côté, on le retourne 2-3 heures de l'autre. Ça s'imbibe assez facilement parce que c'est très perméable, ce fromage-là. Il faut bien sûr l'acheter déjà un peu fait, parce que sinon, quoi qu'il en soit, on n'a pas ces bons arômes. Et ensuite, alors moi... J'aime bien le couper en deux, mettre des noix à l'intérieur, ensuite le paner, c'est-à-dire fariner, ensuite du jaune d'œuf, de la chapelure, et alors on le cuit au four, ou alors sinon moi je le passe dans la friteuse, rapidement, c'est-à-dire un côté, et puis l'autre très chaud, ça colore la chapelure, et ensuite je remets au four pour vraiment terminer la cuisson.
Ce qui est normal, c'est qu'on ait soudainement l'envie de manger. Et c'est ce qui vient d'être le cas. Merci Cyril Lignac.
Je m'en suis étouffé.
Je vous en prie. Tout est sur le site rtl.fr comme d'habitude. Bon appétit.
Merci.
Il est 9h.